Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez un libre journal de Serge de Becketch, dirigé en cette première partie par Serge de Becketch, assisté de Victoria. Document d'archives du 18 février 1998, rediffusé dimanche 18 décembre 2011 dans la nuit de 2h à 5h. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Amis de la Résistance, bonsoir, mesdames et messieurs les collabos. Profitez-en bien, ça durera moins longtemps que les impôts. Je dis ça, mais...
Les contributions.
J'ai plus le moral. Hein.
Ah bon?
Rien ne se passe.
Ça y est, vous avez été atteint?
Rien ne se passe.
Pourtant, un des auditeurs qui ont téléphoné à 3615 Libre Journal, 2 francs 23 la minute.
Le meilleur
Minitel. Il y en a un qui dit, bon rétablissement à Serge, le microbe est mort. Serge est fort et résistant.
Oui.
Alors vous voyez, hein, vous ne laissez pas aller là.
Avant d'oublier, tiens, à propos de résistance, je signale que dans le cadre de la résistance, la librairie Duquesne a renoncé à recevoir Guy Sagère pour la signature du Soldat oublié, qui devait avoir lieu le vendredi 21 février, parce que il y a eu des menaces de représailles, de violence, voilà. Donc ça, c'est un acte de résistance parmi beaucoup. Voyez.
C'est fini, on pourra plus rien faire, parce que chaque fois, il y a les ralefrons qui arrivent, et comme ils sont grands, forts et méchants.
Et bêtes,
ça je ne le disais pas.
S'ils sont grands et forts.
Ah ben écoutez.
Moi, à mon avis, ils combattent surtout à l'odeur.
Moi, j'en ai vu, c'est ça, j'en ai vu dans mon quartier.
Enfin, tout ça finira très très mal, comme dirait Roger.
Oui, mais à part ça, c'est nous les fascistes. Et zut.
Ça finira très mal. Mon cher Martial Bild, bonsoir.
Bonsoir, Serge de Becketch.
Comment allez-vous, vous?
Bien, bien, et vous?
Moi, ça va.
Ça a l'air d'aller mieux. Hein.
Ça irait mieux si on était au pouvoir, mais...
Attendez,
c'est long, hein. Et puis le roi, c'est encore plus long, parce que faut que Le Pen vienne au pouvoir, qu'il mette un peu d'ordre, et ensuite que le roi revienne. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge. Monsieur Viala, bonsoir.
Bonsoir.
Nous attendons Jean Madiran. Qui devait venir nous parler de son livre. On l'attend, voilà, c'est tout. C'est ce que je vous dis. Là, il y a 15 jours, on l'attend, avec une impatience festonnée d'inquiétude.
Oui, ça, l'inquiétude, c'est sur les visages.
Il est pas en retard, en général, j'ai envie de dire. C'est pas le style de la maison. Il y a 15 jours, c'est il y a 15 jours que j'ai reçu Gérard Wedlich pour Beljanski.
Oui.
Est-ce que vous savez combien il a eu d'appels téléphoniques après ça? Est-ce que vous avez une idée?
Non.
Monsieur Bild, vous avez une idée?
Ah, pas du tout.
Pas d'appels téléphoniques, de lettres.
De lettres. Il a dit qu'il fallait pas.
De lettres avec des timbres pour envoyer sa revue. Plus de 500. Hein. C'est quand même quelque chose, cette radio. Hein.
Ah oui.
Mine de rien. Sous des dehors comme ça. Pourtant, on est entendu que à Paris, Caen, Le Havre.
Ça fait combien de départements?
Quoi encore? Les départements, moi, j'y connais pas. Je ne m'intéresse qu'aux provinces. Les départements, c'est une invention de la Révolution. Je ne veux même pas en entendre parler. Mais je parle de ça pas pour me vanter. C'est vrai. C'est pas pour me vanter. C'est juste pour signaler que vous savez que Gérard Wedlich avait dit envoyez-moi 3 timbres. Et je vous adresserai la revue Dialogue, qui est remarquablement faite, je le signale. Alors, 3 timbres à 3 francs, ça fait 9 francs. La revue, elle vaut facilement 4 fois plus cher. Hein. Enfin, au moins 3 fois plus cher. Et très, très bien faite. En couleur et tout. Et donc, il a reçu, effectivement, 500 lettres avec 3 timbres. Des fois 6 timbres, des fois 10 timbres. Mais il a reçu 4 lettres avec des timbres, mais pas d'adresse. Alors, Je le signale, il y a quelqu'un de...
Il y a des gens qui adorent envoyer des timbres.
Oui, c'est gentil, oui. Alors, je signale, il y a quelqu'un de Garches, il y a quelqu'un qui donne son nom, je ne sais pas si je peux le dire, non, je ne vais pas le dire, mais qui est dans l'Oise et qui demande deux exemplaires de dialogue en mettant 10 timbres. Et il met son nom. Son prénom, c'est Egon. Tiens, comme ça, il va se reconnaître. C'est un joli prénom, joli, c'est un prénom germanique. Il a envoyé, donc, voilà, des timbres. Il n'a pas de mis d'adresse. Quelqu'un de garde, je l'ai dit, et puis deux autres personnes. Alors, je peux pas dire qui c'est, parce qu'il n'y a pas de nom et pas d'adresse.
Ils se reconnaîtront.
Tu sais que je suis abonné chez France Loisirs. Tiens, je vais raconter une histoire rigolote. Vous connaissez France Loisirs?
Oui. Ça me surprend que vous soyez abonné à France Loisirs, mais pourquoi pas?
Bah, pourquoi pas? C'est, après tout, c'est un moyen d'avoir des livres. Et alors, l'autre jour, ils m'ont envoyé une lettre pour me dire qu'ils n'avaient pas mon adresse. C'est vrai, hein? Je plaisante pas du tout. Il dit, monsieur, on nous a retourné le catalogue du mois, donc vous avez changé d'adresse, veuillez nous indiquer votre adresse. Tout ça adressé à mon adresse. Enfin, donc, on est en France, le pays de Descartes. Ce redoutable crétin de Descartes, ce malfaisant crétin de Descartes. Bon, alors on va parler un peu de l'actualité, parce qu'elle est quand même intéressante, l'actualité. Vous avez vu que ça y est, la bête immonde est sur le flanc. Ça y est, ils l'ont vu, la bête immonde. Vous lisez dans Le Monde... Policiers et gendarmes démantèlent un réseau néo-nazi. Alors eux, ils disent pas international, mais toute la presse dit international, qui agissait sur Internet. C'est formidable. Vous avez pas vu ça?
Non, j'ai pas cette information-là.
Oh, c'est formidable. Alors, c'est le responsable français du groupuscule a été arrêté à Londres. En réalité, quand on lit le papier et quand on connaît l'histoire, on s'aperçoit que c'est trois crétins. Mais alors, basique, hein, bas de plafond et avec la racine des cheveux extrêmement près des sourcils. Ils ont ouvert un site internet qui s'appelle Votan. Or, ce qui est typiquement nazi, Votan, comme chacun le sait. Votan, c'était un des officiers dans l'armée. Il était même à la Gestapo. Il était SS de la Gestapo, Votan, c'est ça. Et alors donc, ils ont créé un site qui s'appelle Votan, et ils diffusent des messages à leur niveau, quoi. C'est-à-dire, c'est pas... au point de vue de l'orthographe, déjà, c'est un peu... Et alors donc, on a mis fin à leurs redoutables activités. Ça, c'est dangereux. Ça. Oh là, beau succès de la police et de la gendarmerie française.
Ça équilibre les difficultés rencontrées en Corse.
C'est
le même niveau et de même qualité.
C'est ça. Tiens, à propos de la Corse, il faut quand même que je vous lise un extrait de NH. J'aime pas lire National Hebdo. Enfin, j'aime pas le lire au micro parce qu'il n'y a pas de raison de faire de publicité à la concurrence. Mais là, quand même, il y a un article de Béatrice Perrer que je ne peux pas résister au plaisir de vous donner à connaître. Enfin, au moins un extrait. Pour le reste, vous achèterez le journal. Alors que si vous ne voulez pas acheter... Tiens, voilà. Vous voulez pas acheter le Libre Journal, vous voulez le lire. Vous allez sur Internet ou sur le Minitel 3615 Libre Journal.
2,23 la minute.
Oui, bah d'accord. Mais vous, si vous lisez vite, ça revient moins cher que d'acheter le journal. Et là, si vous lisez lentement, vous êtes, c'est raté. Tandis que National Hebdo, si vous voulez le lire, vous êtes obligé de l'acheter. Il n'est pas question, il n'y a pas d'internet,
il n'y
a pas de...
Il y a un internet, bien sûr.
National Hebdo est sur internet.
Oui, tout à fait, il y a un site internet.
Bon, Martial Bill, c'est la dernière fois que vous venez dans cette émission. Terminé. Alors. Oui, mais il n'y a pas de Minitel.
Non, il n'y a pas de Minitel.
Non, mais comment, l'intégrale de National Hebdo est sur Internet?
Non.
Ah, bah voilà, c'est ça. Non, bah,
j'étais pas choisi.
Bah voilà, bah bien sûr. Enfin, donc voilà, moi, la page que je choisis, ça s'appelle... Écoutez, excusez-moi, je vais rire avec quelque chose de triste et qu'on n'a pas le droit de rire avec, mais quand même, ça vaut le déplacement. Le papier s'intitule « Goodbye French Prefect ». Et naturellement, il est sous-titré, selon un principe immémorial chez Martin Pelletier, « L'amitié avec les Corses est-elle possible ?» Alors, voilà ce que je lis. D'abord, il dit qu'en Corse, excusez-moi de rire, mais je peux pas. C'est... Après quoi, la Corse a été déclarée île morte pendant un quart d'heure, le préfet, lui, est mort pour plus longtemps. Déjà, ça montre bien, ça mesure bien le grotesque de toutes ces gesticulations. Dans le temps, quand quelqu'un mourait, on faisait, vous savez quoi? Vous savez ce qu'on faisait? On faisait une messe. Et même à la limite, on faisait une procession. Maintenant, on fait des minutes de silence et des marches silencieuses. Et puis on se quitte en chantant « Ce n'est qu'un au revoir, mes frères ». Donc ça, c'est des manipulations maçonniques. Alors en tout cas, le préfet étant mort depuis pour plus longtemps que l'île de Corse, Béatrice Perrer écrit ceci. « L'enterrement du préfet Erignac fut un grand moment de fermeté républicaine. » Je n'ai pas compté les appels à l'esprit républicain, à l'ordre républicain, aux principes républicains, mais la République a été fermement défendue. C'est effrayant ce que la République a besoin d'être défendue. Depuis le temps, elle devrait se sentir chez elle. Or, rien n'y fait. Nous savons pourtant que la République est un régime autoritaire, car elle combat perpétuellement des ennemis imaginaires qu'il importe de réduire et de tenir sous haute surveillance. Elle se débrouille ces temps-ci moins bien avec les joyeuses bandes des banlieues et les voyous impopulaires. Cependant, d'illustres républicains n'ont pas fait dans l'humanitaire. Cavaignac, Clémenceau, Clémenceau, le général de Gaulle. Tout n'est pas perdu, car la République est increvable, quoique un peu flappie ces derniers temps. Il lui manque un mec à la redresse, et il y aura des candidats. Faute de mec à la redresse, nous connaîtrons bientôt les délices de la société américaine, avec gang, Miami, interdiction de fumer et galipette présidentielle. Hélas, les mecs à la redresse seront accusés de faire dans l'extrémisme, cruel dilemme dont je ne vois pas la fin. Voilà.
L'Assemblée nationale est dos de...
Demain.
Vous l'avez déjà.
Ah oui, moi je suis.
Vous êtes un privilégié.
Oui. Comme j'ai présent de demain. Mais j'ai pas le directeur de présent d'aujourd'hui. Ça, c'est embêtant. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, c'est tout?
Je sais pas, vous étiez en train de lire des papiers, alors faut les continuer.
Le Monde également nous apprend que la France souffre d'une pénurie de 10 000 informaticiens. C'est un pays où il y a 7 millions de chômeurs et on cherche 10 000 informaticiens. Or, je me permets de rappeler qu'il y a quelques années, M. Servan-Schreiber, vous vous rappelez de M. Servan-Schreiber, un brillant sujet celui-là, il avait lancé en France le plan calcul. On avait acheté je ne sais pas combien de millions d'ordinateurs pour équiper le banc et l'arrière-banc des classes. On s'était d'ailleurs aperçu que c'était très bien d'avoir des ordinateurs dans les écoles, mais qu'il aurait peut-être fallu penser avant à apprendre aux professeurs à enseigner. Alors, on avait des ordinateurs, mais comme personne avait la moindre idée de la façon dont on s'en sert, eh ben, ils ont été foutus au rancard. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, quoi? Eh ben, il manque 10 000 informaticiens. Voilà. C'est un beau pays, la France, sous la France républicaine. Je voudrais signaler que ça, c'est une annonce que je fais tout de suite. C'est pour priver Victoria du plaisir de la faire.
Je suis privée ce soir.
Surtout que le sujet est original. Donc je l'annonce, le 28 février 1998 à 19h30 à la Maison de la Chimie, au Grand Amphithéâtre, 28 bis rue Saint-Dominique, 75 007 Paris, il y aura une grande réunion avec production d'un documentaire vidéo sur les heures les plus sombres de notre histoire. En l'occurrence, plutôt les heures les plus sombres de l'histoire des témoins de Jéhovah, car on oublie trop que les témoins de Jéhovah, eux aussi, y ont eu droit. Et donc le Cercle européen des témoins de Jéhovah, anciens déportés et internés, présente la fermeté des témoins de Jéhovah face à la persécution nazie. Samedi 28 février 98 à 19h30, Maison de la Chimie. Vous n'êtes pas obligé d'être témoin de Jéhovah pour y aller. Si vous trouvez
On n'est d'ailleurs pas obligé d'y aller non plus.
Pas vraiment, c'est pas une obligation. Non, mais c'est pour les auditeurs qui trouveraient que, par exemple, la télévision n'en dit pas assez, qu'on n'est pas assez informé sur cette période de l'histoire. Et ben là, samedi 28 février à 19h30, à la Maison de la Chimie. D'ailleurs, je trouve ça d'un goût assez moyen de faire ça à la Maison de la Chimie.
On peut peut-être y aller pour s'excuser. Comme on a pris
Ça, mon cher Biala, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis né en 46, alors là, j'ai un alibi en béton armé. Ce matin, oui, c'est pas ce matin. Le 11 février sur Europe 1, l'animateur Arthur, c'est l'animateur le plus con de la radio. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, hein, c'était sa publicité.
Il ne mentait pas.
A tenté de piéger téléphoniquement le service d'aide sociale de la mairie de Vitrolles en Provence et a vivement encouragé ses auditeurs à faire de même. Alors je vous signale, si vous voulez rigoler avec Arthur, vous pouvez téléphoner à Europe 2, puisque c'est sur Europe 2 que ça s'est passé. Et le numéro d'Europe 2, vous le connaissez, Martial Bill?
Non, j'ai pas le plaisir de le connaître parce que je l'ai donné sur Radio Le Pen parce que beaucoup de gens me disaient, qu'est-ce qu'on fait? Ben, appelez Europe 2 et dites-leur poliment que...
Oui, poliment, aimablement.
Toujours, parce qu'en fait, la personne que l'on a, la standardiste, n'y est strictement pour rien. Mais c'était quand même, je crois, assez intéressant de faire savoir à Arthur ce que nous pensions. Et c'est difficile de lui faire savoir parce que je crois que la dernière fois que quelqu'un lui a fait savoir, il y avait une petite, il s'était enguirlandé et disputé sa femme, tout au moins sa concubine, s'était disputé avec la voisine d'en face pour une question de poubelle, je crois, parce qu'ils habitent à Boulogne. C'est très important, parce qu'Arthur est venu régler le problème en essayant bien presque de frapper la voisine, mais comme il n'a pas pu avoir la voisine, il a frappé le voisin.
Ce qui est bien, je trouve.
Et c'est le garde du corps d'Arthur qui
a
obligé.
Il a frappé
de...
chez son voisin ou il a frappé sur son voisin?
Il a frappé chez son voisin, sur le voisin.
Ah oui,
et le voisin a porté plainte. Alors Arthur a dit, mais si je l'ai frappé, c'est parce que il m'avait traité de juif. Moi, je ne savais pas qu'Arthur l'était. Et Arthur a donc fait prévaloir le fait qu'il avait été insulté, et que cette insulte était antisémite. Mais il se trouve que le voisin était un membre de SOS Racisme, un membre actif.
Je vois que Martial Bild est un lecteur attentif du Libre Journal.
Mais bien sûr, je lis toujours là où je peux trouver des informations vraies.
Donc, pour en revenir à Europe 2, si vous voulez rigoler aussi, parce qu'avec Arthur, on est là pour rigoler quand même. Donc, le téléphone d'Europe 2, c'est le 01 47 23 10 63. Alors, c'est pas la peine de les injurier, c'est tout ce qu'ils attendent. Mais vous rigolez avec eux, quoi. Hein, c'est amusant. 01 47 23 10 63. Vous pouvez dire à Europe 2 que... Et puis, si vous en avez assez, vous pouvez aussi écouter Radio Courtoisie.
Tout à fait.
Enfin, si on le dit, ceux qui nous entendent, là, ils sont en train de le faire. Donc, c'est un peu de la publicité pour rien.
Il faut quand même écouter un petit peu Arthur sur Europe 2, parce qu'on s'aperçoit qu'on peut être un des plus grands animateurs officiels de la radio en possédant un peu moins de 200 mots pour s'exprimer. Et je vous assure, prenez une heure et demie de son émission, comptez le nombre de mots qu'il prononce et vous tombez en dessous de la barre des 200.
Oui, mais là, moi, je suis pour ce genre de distraction, je préfère aller faire un tour à Vincennes. C'est plus joli, c'est plus varié comme faune et tout.
Et plus naturel.
Et plus naturel, puis il n'y a pas beaucoup. Je parle du rocher, hein, je parle pas
j'ai
de...
J'ai bien compris.
Donc, et là, il n'y a même pas de 100 mots, là, on est tranquille, on n'a pas d'effort à faire. Le rapport Sueur, vous avez une opinion sur le rapport Sueur?
Oui, j'ai une opinion, c'est celle qui est définie d'ailleurs très joliment dans un des journaux de la presse nationale, où on voit un avion distribuer des billets et lancer des billets sur une ville qui est en proie aux flammes. C'est la proposition de Monsieur Sueur, c'est continuons à acheter la paix civile, et pour cela il fixe une somme de l'ordre de 35 milliards de francs. Donc la proposition
pendant
10 ans, donc de 350 milliards. Je crois que le dessin est de Char, hein, il faut rendre à Char ce qui lui appartient. Mais 350 milliards pour acheter la paix civile, parce qu'en fait ce n'est que cela. Je crois que c'est une proposition totalement indécente.
Quel est le chiffre des immigrés en France officiel? Officiel, pas le vrai, le chiffre officiel.
Officiel, c'est 4 millions.
3
millions 5, 4 millions.
Disons 3 millions 5 pour simplifier.
Oui.
Donc 35 milliards par an pour 3 millions 5, ça fait 10 000 francs par an et par immigré, ça. Je me trompe pas.
Oui, c'est dans cet ordre-là. Sur la base
350 milliards, ça fait 100 000 francs par an, par immigré. Est-ce que vous croyez pas que si on disait à chaque immigré qui rentre chez lui, vous partez avec 100 000 francs, en 15 jours ils sont tous partis?
Oui. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte que, au bout de 3 semaines, ils soient pas revenus. Ce qui avait été le cas avec Monsieur Barr.
Alors,
qui leur avait donné 10 000 francs.
Alors, t'as un tatouage sur le front.
J'ai un souvenir.
Bon, je signale au flic de la pensée que c'était une plaisanterie, le coup du tatouage. Parce qu'il faut se méfier avec ces abrutis, là.
Bien sûr.
Oui,
même
alors.
Si c'est à la mode, d'ailleurs. Mais. Oui, j'ai un souvenir de... Oui, vous m'avez coupé. J'ai un souvenir dans ma ville de Rony où il y a eu le départ des 101 Maliens, les fameux 101 Maliens.
Ça venait de chez vous?
Oui, c'était de chez moi parce qu'en fait...
Il y a eu un film qui a été tourné là-dessus. Ah non, c'est les 101 Dalmatiens.
C'est les 101 Dalmatiens. Mais les 101 Maliens, c'était facile parce que c'était le ministre de l'époque qui avait... le ministre de l'époque qui avait fait partir ces 101 Maliens. Et le ministre était Robert Pendreau. Comme il était député de Rony-sous-Bois, il les avait fait partir de Rony-sous-Bois. Et au bout d'un an, 66 étaient revenus.
Vous savez, Martial, vous n'avez pas d'écouteurs, donc vous savez pas que vous êtes en train de parler comme sur les grandes radios, sur un fond musical.
C'est formidable, ça dépend quel est le fond musical qui passe.
Voilà, c'est fini, ça s'est arrêté, c'est dommage.
C'était joli,
ouais,
peut-être.
Ça accompagnait bien, je trouvais que vous aviez un bon.
Mais donc, 101 Maliens étaient partis, 66 étaient revenus, quelques mois plus tard.
Eh ben, ça fait 44, ça fait 34%, 35, non, oui, enfin, presque 34% de positif.
Il y a un auditeur qui poursuit Martial Bild de sa question. Ah. Monsieur Bill, peut-il nous préciser, enfin, les avantages donnés aux étrangers par rapport aux Français? Vous avez dit une fois qu'il y avait les étrangers avaient des avantages sur.
D'abord, ils ont l'avantage d'être étrangers pour commencer.
Ils ont des avantages qui sont nombreux et importants, voilà. Puisque la priorité s'effectue aujourd'hui dans tous les domaines de la vie sociale, de la vie politique de cette nation. Ainsi, quand l'on fait les aides au logement pour les plus démunis à la région Île-de-France, puisque nous parlons actuellement des régionales, il faut savoir qu'il y a une priorité effective donnée aux immigrés. Mais ce n'est pas une invention, ce n'est pas un fantasme du Front National, puisque je le répète souvent, cette officialisation de cette préférence étrangère s'est effectuée en janvier 1996. C'était le pacte pour la ville présenté par Monsieur Godin et Raoult. Ceci,
enfin, Monsieur Raoult
et Godin. Et ceux-ci ont indiqué pour la première fois, de manière officielle, ils ont évoqué le terme de discrimination positive, c'est-à-dire de considérer que dans notre pays, il devait y avoir une discrimination qui privilégie les immigrés au regard des jeunes Français. Et tout est ainsi. Le prix des colonies de vacances est moindre. Les aides sociales sont plus nombreuses. Il y a des aides spécifiques pour l'immigration qui ne sont pas, comment dire, réservées aux Français. Enfin, j'ajouterais que quand on habite dans un HLM, et que l'on ne paie pas son loyer, si l'on est français, l'on est viré. Si l'on est immigré, eh bien, l'on a la possibilité de continuer à vivre dans cette habitation à loyer modéré, sans être véritablement embêté ou ennuyé. C'est une réalité. Donc, ce n'est pas une invention. Aujourd'hui, les étrangers ont plus d'avantages que les Français, sous le prétexte que comme ils en avaient moins, il faut qu'ils rattrapent le retard. C'est bien la notion de discrimination positive qui a été essayée aux États-Unis et qui est maintenant abandonnée aux États-Unis, car elle a amené des situations rocambolesques. Par exemple, aux États-Unis, une discrimination existe positive à l'école. C'est-à-dire que l'on donne des diplômes aux jeunes étrangers ou jeunes d'origine étrangère plus facilement qu'aux jeunes américains
aux jeunes
de souche.
Ce qu'ils appellent des minorités défavorisées.
Voilà. Donc ce sont des
les blacks,
les hispaniques, les asiatiques.
Oui, ben oui, ils sont pas tellement défavorisés. Et alors, voilà, apparemment.
Et on s'aperçoit que les asiatiques sont pas intellectuellement loin de là défavorisés et que donc ils n'ont pas besoin de cette discrimination positive.
Mais c'est un pur
positive.
Hasard parce qu'il y a pas de race. De race n'existant pas, c'est purement par hasard que dans les disciplines scientifiques, les asiatiques sont premiers partout.
C'est un hasard. C'est un hasard. Moi, c'est un fait.
Statistiquement, ça doit pouvoir s'expliquer. Si on jette, enfin, c'est un peu. Vous savez, si on jette plein, on va dans un. Non, vous savez pas
je
ça.
Ne sais bon, rien. Ça va. Je ne vais rien savoir sur ce domaine-là.
Dites-moi, je reçois un message. Encore les méfaits des PTT. Jean Madiran, vous avez écrit pour vous dire qu'il est arrêté jusqu'au 15 mars et qu'il ne pourrait pas venir ce soir. Donc, vous n'avez pas reçu
alors,
la lettre. Donc,
effectivement.
C'est les PTT.
Mais je pensais que Jean Madiran était suffisamment remis pour pouvoir être là ce soir. Je ne savais pas qu'il. Je n'ai pas reçu cette lettre. Je le prouve, si j'ose dire. C'est que les lettres de Jean Madiran, je les range dans une chemise spéciale. C'est avec les lettres de Brignot, les lettres de Le Pen, puis quelques autres, c'est les seules lettres que je garde. Parce que je dis, mes enfants, plus tard, pourront dire, vous voyez, mes petits-enfants pourront dire, papou, il connaissait des gens bien. C'était pas seulement un voyou, il connaissait, il fréquentait des gens bien. Donc j'ai pas reçu cette lettre. J'espère que je vais la recevoir, je la garderai alors.
Voilà,
je vais faire un procès au PTT. Qu'est-ce qui doit. Oui. Alors, comme je parle toujours à Martial Bild, on va peut-être parler maintenant de cette manifestation du 21
février.
Il y a beaucoup de messages.
Alors, où en est-on? Est-ce qu'elle est maintenue?
Bien sûr, ah bon. Elle est maintenue et est totalement autorisée. Il y a deux manifestations, une manifestation de la gauche et de l'extrême gauche, le 20 février, on n'est pas obligé de s'y rendre. Par contre, celle des patriotes, des nationaux, se déroulera le samedi 21 février à 14h, place de la Loi à Versailles. C'est une manifestation qui s'annonce comme imposante. Vous savez, les nationaux, les patriotes n'ont pas une culture de descendre dans la rue facilement, on le fait le 1er mai, mais nous n'avons pas cette pratique qu'à la gauche et l'extrême gauche de descendre dans la rue. Souvent aussi, les patriotes travaillent. Souvent aussi, les patriotes ont une famille. Les gauchistes, quand ils descendent dans la rue, le font sur leur temps de travail ou sur leur temps de liberté syndicale ou sont stipendiés pour le faire. Cela change beaucoup de choses. Et je crois que les Français, les patriotes, ont pris conscience de l'importance de cette manifestation. J'ai des échos qui viennent vraiment de toute la France, et on se mobilise, des gens qui vont venir de Nice, que j'avais il y a quelques instants au téléphone, qui vont prendre une voiture, vont monter et redescendre pour manifester quelques heures. C'est quand même un aller-retour, 24 heures de voiture, 20 à 24 heures de voiture, pour pouvoir manifester à 4 avec le Front National pendant quelques heures à Versailles. Je crois que ça prend une ampleur importante, et il y a beaucoup d'éléments qui amènent les gens à se rendre à cette manifestation. J'allais dire que chacun trouve quasiment individuellement une raison de manifester, parce que une de ses libertés a été agressée ou n'a pas été défendue, soit sa liberté de circuler librement, ou sa liberté syndicale, sa liberté de correspondance, ça existe aussi, sa liberté d'expression.
D'ailleurs, je signale que les syndicats trotskistes, enfin trotskommunistes des PTT, ont tenté de s'opposer à la distribution du matériel électoral du Front National par les postiers.
Oui, c'est-à-dire que la direction nationale de la Poste, direction commerciale, avait accepté de distribuer le matériel de propagande du Front National, considérant que, ne tombant pas sous le coup de la loi, il pouvait le distribuer comme tout élément ou tract ou document commercial, politique. Cela ne posait pas de problème. Cela a posé des problèmes par l'action double de deux syndicats, prioritairement celui de la CGT et celui de Sud, qui est l'extrême gauche, et suivi, mais plus d'une manière plus mollassonne, par la CFDT, et bien évidemment avec la complicité de tous les autres qui se sont tus. Et ce sont les syndicats qui ont fait pression sur la direction de la Poste et qui ont trouvé un écho direct auprès du ministre. Or, le ministre de la Poste, c'est Monsieur Strauss-Kahn dorénavant. C'est directement rattaché maintenant au ministère de l'économie et des finances. C'est donc dire l'importance qu'ont aujourd'hui les éléments les plus extrémistes trotskistes ou communistes dans notre pays, l'importance qu'ils ont réelle. Des routiers CGT peuvent bloquer le pays en quelques heures. La Poste peut, de manière révolutionnaire et totalitaire, refuser de distribuer tel ou tel document. J'attire votre attention d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'on voit la CGT, dans l'affaire de Kress-Maëlville, dire « on s'opposera par la force ». À ceux qui voudront fermer la centrale nucléaire. On voit dans l'affaire des chômeurs qui pillent les magasins pour se servir directement, on voit la CGT du Nord dire que c'est un droit, un nouveau droit, et que finalement le pillage, on revendique ce droit.
Je vous signale que c'est pas du tout nouveau.
Il y a clairement des meutes.
À Lippe, ça avait déjà été comme ça. Lors de la liquidation de Manu France, les syndicats communistes avaient volé des centaines d'armes qui étaient le stock de Manu France. Ils l'avaient volé et ils les ont vendues ensuite.
Je crois qu'il y a quand même une montée en puissance de
c'est
cela.
C'est depuis longtemps que les organisations trotskommunistes, enfin à l'époque c'était trotskiste et communiste, maintenant on peut dire trotskommuniste puisque depuis la chute apparente de l'Union soviétique, et ils se sont totalement réconciliés, ils travaillent main dans la main, Krivine et Hu s'embrassent sur la bouche, d'ailleurs ils sont pas dégoûtés. Depuis maintenant, ils pratiquent très très couramment ce qu'on appelait jadis la récupération prolétarienne, ce qui s'appelle le vol, et on l'a vu récemment, notamment dans les hypermarchés Leclerc, ou des groupes de pseudo-chômeurs. Tout le monde sait que ce ne sont pas des chômeurs. Maintenant, tout le monde sait, sauf les imbéciles, bien sûr, qui ne savent jamais rien et qui comprennent jamais rien. Mais enfin, les gens qui sont un petit peu informés et qui ont autre chose que de l'eau de vaisselle dans la boîte crânienne savent que les prétendus chômeurs sont en réalité à 80% des fonctionnaires ou des permanents syndicaux ou des permanents des partis politiques, généralement des fonctionnaires des postes d'ailleurs, parce que apparemment comme ils distribuent pas le courrier, ils ont vraiment que ça à foutre. Donc ou de France Télécom. Donc ces gens-là sont allés dans un hypermarché Leclerc où ils ont vidé les caisses et ils sont sortis, ils ont vidé les rayons et rempli les caisses, il faut surtout pas employer ce mot-là. Les chariots de supermarché Et ils sont sortis en emportant les chariots de supermarché remplis devant l'impuissance totale de la direction du supermarché à faire respecter la propriété privée. L'autre jour, ils sont allés dans un restaurant, j'ai raconté ça dans le livre au journal, et ils ont exigé d'être invités, ils étaient 60. Le patron du très grand restaurant parisien, pas très grand par le montant des éditions, mais très grand par la surface et par la réputation, c'est quand même une bonne maison, leur a proposé de les recevoir dans le réfectoire du personnel. Et les gars ont répondu, nous on bouffe pas chez les larbins, ce qui était déjà sympathique pour les serveurs. Moyennant quoi, on les a servis dans la salle du restaurant. À l'issue du dîner, le patron du restaurant est venu les voir en disant, écoutez, on a une bonne surprise pour vous, parce que j'ai discuté avec la haute direction du groupe et on peut embaucher dès demain matin 13 personnes. Et à ce moment-là, les gars ont commencé à tout casser en disant, on n'est pas venu chercher du boulot, on est venu manifester. Et ils ont foutu les plats, on leur avait offert des fruits de mer et des côtes de bœuf. Et ils ont jeté les reliefs du repas à travers la salle, ils sont partis en cassant tout. Ça devient systématiquement, systématique.
Je crois vraiment qu'il y a une montée en puissance, qu'il y a des essais, des ballons d'essai. Il y a quand même une conjonction, mai 68, mai 98. Moi, je vois quand même là aussi un symbole. Je vois aussi un pouvoir complètement impuissant en déliquescence.
Ils sont complètement gâteux, Chirac, complètement à la ramasse.
Je dois dire honnêtement que je n'ai rarement vu, ça fait depuis 20 ans que je fais de la politique, et je n'ai jamais ressenti de manière aussi forte la notion de chaos. Et on regarde l'importance du Front National, c'est un peu de manière schématique, mais un peu vrai, le Front National ou le chaos, l'ordre ou le désordre.
J'écoutais ce matin, pour donner une idée du degré de déliquescence du pouvoir dans ce pays, j'écoutais ce matin Denis Tillinac sur France Inter. Denis Tillinac, c'est quand même pas Adolf Hitler, hein. On est assez loin du compte, hein. Dans la série des grands mous, il est assez bien positionné. Chirac lui a demandé d'abandonner toute responsabilité et toute fonction dans la nébuleuse chiracienne, parce que on considère qu'il a une liberté de parole qui est un petit peu exagérée. Non mais vous vous rendez compte, si vous avez entendu Denis Tillinac parler, il est à peu près aussi rugueux qu'une boule de billard, hein.
Oui, c'est vrai.
Chirac trouve que c'est encore trop fort et qu'il vaut mieux qu'il prenne sa liberté pour pouvoir s'exprimer sans engager son ami le président de la République. On en est là.
Moi, j'ai un exemple. Vous savez, je trouve tous les jours une raison d'aller le 21 février à Versailles, place de la Loi, à 14h. Tous les jours, je lis, j'écoute comme vous et je suis un peu comme Roger Olyndre. Je note les déclarations et je trouve une raison supplémentaire de me rendre à Versailles. Je crois que cette semaine, la chose qui m'a le plus révolté, et Dieu sait qu'il faut faire fort maintenant, c'est la condamnation de Catherine Maigret. Celle-ci a été condamnée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence qui la condamne et la poursuit, la persécute depuis des mois. Il se trouve que Catherine Maigret n'était pas venue à son procès, elle était excusée, il y avait une raison valable de ne pas y être puisque elle attend un bébé et beaucoup de mères savent, mon épouse a fait la même chose, que maintenant c'est des fois difficile de faire ses bébés, qu'il faut se coucher et se reposer, donc elle n'a pas le droit de se lever, donc elle ne s'est pas rendue à ce procès. Et elle était poursuivie par un ancien employé de la ville qui la poursuivait parce que elle l'avait injurié, disait-il. En effet, elle avait utilisé à son égard le mot délinquant en question. Délinquants en question.
C'est très très dur.
Donc on le voit, c'est une injure particulièrement incroyable, et la décision du tribunal est parfaitement ahurissante. Ahurissante, Catherine Maigret a dit d'injustice et d'arbitraire. Et je sais qu'elle a été très touchée, parce que c'est pas le moment non plus. La vie d'une femme, il y a des moments où c'est pas simple quand on attend son bébé et tout. Et elle n'a pas eu, je l'ai dit, ce n'est pas simple pour elle de se faire condamner, parce qu'elle a été pour cela condamnée à 2 mois de prison avec sursis. Rendez compte. Et à 55 000 francs de dommages et intérêts. Un maire d'une ville comme Vitrolles, ça gagne,
rien.
Faut savoir, 12 000 francs. 11 000, 10 000, 11 000 francs peut-être.
Le maire de Toulon gagnait moins de 7 000 francs.
C'est possible que ça soit moins que ça. C'est possible que ça soit moins que ça. Et de toute façon, ça ne couvre pas l'effet de représentation, la nécessité de s'habiller correctement, d'offrir un pot, etc. Donc, bien évidemment, ça touche une personne qui n'est pas financièrement riche.
Et, moins que Chirac.
Et cette injustice, elle est d'autant plus forte, et c'est à cela que je voulais arriver, que le même tribunal avait eu à juger d'injures subies par Catherine Maigret de la part du responsable de Ralfron à Vitrolles. Celui-ci l'avait traité, donc c'est un militant de l'organisation subversive Ralfron, l'avait insulté dans l'exercice de ses fonctions de maire en la traitant, je ne peux pas lire ces mots-là sur Radio Courtoisie, mais de, disons, quatre mots particulièrement odieux, surtout adressés à une femme. Et alors que Catherine Maigret a eu 2 mois de prison avec sursis, ce militant n'a pas eu, bien évidemment, de peine de prison. Alors qu'elle a eu 55 000 francs d'amende, de dommages, intérêts et de frais, il a eu 1 000 francs d'amende, mais attention, avec sursis, 1 franc de dommages et intérêts, et tout de même 2 000 francs de frais. Voilà, deux poids, deux mesures qui fait que l'on en vient à douter de sa justice, bien sûr, et que l'on a un ressentiment tellement fort, tellement puissant, que... Eh bien, on va avoir pour une fois l'occasion de crier ensemble, on en a marre. Et je crois que c'est ça, cette importance de cette manifestation. On en est à augmenter le nombre de cartes d'une manière incroyable. Par exemple, sous la pression des gens qui téléphonaient, on a mis en place des cars qui vont partir du paquebot de Saint-Cloud. On va mettre en place des cars, on double, on triple dans certaines fédérations les cars, parce que on en a marre, et je crois qu'on va être des milliers à crier cela dans les rues, on en a marre. C'est important, cette manifestation, elle est importante.
C'est une manifestation très importante. Je pense d'autre part que c'est une manifestation qui est hygiénique, si j'ose dire. Car je sens autour de moi, de la part de beaucoup de militants, monter une telle colère que... Et je pense d'ailleurs que c'est ça qui justifie ces attitudes de certains magistrats, de certains policiers, de certains journalistes, qui font partie réellement de ce qu'il faut bien appeler un complot, un véritable complot, qui tente de pousser les militants du Front National à la faute. Ça, c'est parfaitement clair. Donc, ça, c'est une manifestation qui peut avoir un caractère hygiénique, je le dis, en ce sens que c'est une manifestation que on peut appeler une catharsis. C'est le moment où on va évacuer la colère qu'on accumule depuis des mois, et on va se débonder un petit peu.
Je crois que c'est important.
Autrement, ça finira
mal.
Le
calme des vieilles troupes, comme dirait Jean-Marie Le Pen, mais la détermination des jeunes troupes. Et ça, je crois que c'est une manifestation importante. Pardonnez-moi, Victoria, ce que je voulais donner le numéro de téléphone où l'on peut avoir tous les renseignements. Vous l'avez.
Parfait. J'attendais pour pouvoir le dire.
Parfait. Parce que sinon, je me fais disputer après en disant, tu n'as pas dit l'essentiel.
Il y a beaucoup de gens qui demandent où sont les cars, où peut-on les trouver, etc. Donc, vous avez tous les renseignements au 01 41 12 50 00. 01 41 12 50 00. Là, vous saurez d'où partent les cars. Je sais qu'il y en a dans.
Alors, on a mis en place une équipe. On a mis en place une équipe pour répondre à tout cela sur ce numéro de téléphone.
Il y a 3 points dans Paris et puis
dans tous les départements.
Il y en a dans tous les départements.
C'est quand même pas difficile d'y aller en voiture non plus. Même en train. En train, c'est la gare Saint-Lazare. Oui. Avec la station, il faut descendre. C'est Versailles, rive droite. C'est la plus proche de la place de la Loi. La place de la Loi. En plus, tous ceux qui sont habitués aux manifestations du Docteur d'Or connaissent à peu près où ça se trouve. Et puis quand on y va en bus, c'est le 171 au pont de Sèvres, qui mène là aussi à Versailles. Et puis si on y va en voiture, bien là, il faut prendre l'autoroute de Normandie, c'est la A13. Surtout prendre la deuxième sortie Versailles. Versailles, Roquencourt, Parly 2. Là, on prend direction Versailles, on descend, on passe, et dès qu'on arrive à Versailles, on passe forcément par la place de la Loi. Donc si on prend cette seconde sortie, Versailles, Roquencourt, Parly 2, c'est à 14h, donc il faut partir quand même pour y être vers 13h, 13h15.
Mais en fait, il y a beaucoup d'autocars, donc si on n'a pas envie d'avoir sa voiture, s'il y a beaucoup de monde, le téléphone 01 41 12 50 00.
Je voulais juste préciser quand même que c'est une manifestation qui est totalement autorisée, qui sera donc protégée par la police, avec notre propre service de sécurité. Il n'y aura donc pas d'incident. Deuxièmement, on peut quand même y aller vraiment en voiture, en car, effectivement, c'est bien, en voiture aussi, parce que Versailles est quand même une ville qui, par son château, est amenée à accueillir des milliers, des dizaines de milliers de touristes, donc une capacité de parking, d'accueil, qui est quand même assez importante.
On peut en profiter pour visiter Versailles, qui est quand même une bien belle ville.
C'est sûr.
On nous signale que sur la chaîne Planète, il y a ce soir à 18h30, puis à 20h35, une émission consacrée à la question des alliances à droite, la guerre culturelle du Front National. Vous êtes au courant de ça?
Oui, mais je me méfie énormément de la chaîne Planète qui passe des documentaires, mais qui appartient à Canal+. Comme je n'aime pas Canal+, et que je me suis désabonné il y a quelques années de cela, je m'étais énervé parce que je m'étais aperçu, je me suis rendu compte que j'étais abonné à Canal+. Parce que quand on prend un abonnement, on finit des fois par oublier, comme c'est un prélèvement mensuel, je ne faisais plus très attention. Et d'un seul coup, je me suis dit, ce n'est pas possible que je paie pour carte zéro. Premièrement, qu'ils cherchent à me mettre en examen.
C'est pas possible de rester abonné à Canal+. C'est pas possible.
Moi, je ne sais pas si les autres veulent le faire. Moi, je boycotte, j'appelle jamais à boycotter quoi que ce soit, mais j'ai encore la liberté de faire ce que je veux.
Le boycott, c'est tout simplement la constatation que quand on est catholique et français, on peut pas être abonné à une chaîne qui est un cloaque d'iniquité et qui déverse des torrents d'obscénité à longueur de journée.
Ah oui, Canal+, c'est plus de décadence.
Si vous pouvez pas être abonné à des journaux pornos, vous pouvez pas être abonné à Canal+. C'est aussi simple que ça. Il faut être logique.
J'ai fait mon mea culpa. Donc la chaîne Planète appartient à Canal+, ce qui m'amène à être très prudent sur les documents qu'il présente.
Oui, parfois ça peut être intéressant de regarder justement pour savoir ce que dit l'adversaire.
Oui.
D'abord, au lieu de s'abonner à Canal+, il ferait mieux de payer leur adhésion à Radio Courtoisie.
La radio libre du pays réel et de la francophonie, où vous écoutez Serge de Beckett.
Oh, elle a un sens de la...
Je reçois en ce moment Martial Bild.
Des messages.
Bon, des messages,
non, pas de messages.
C'est des
questions.
Il y a
plein de messages, mais elle veut pas
aller. Si, non, mais il y a énormément de messages sur qu'avez-vous pensé du débat de lundi soir sur TF1.
À qui se pose ces questions?
À vous, à Monsieur Bild.
Écoutez, moi, je vais vous répondre. Je suis pas un fan, entre guillemets, de ce type d'émission qui accueille 5-6 leaders politiques, parce que même en 2 heures, on a le sentiment que l'on ne peut pas dire grand-chose. J'ai trouvé Jean-Marie Le Pen, que l'on a dit coincé entre Léotard et Robert Hue, capable de se placer au centre du débat politique. Je l'ai trouvé très direct, capable surtout de répondre à François Léotard, ce qui est pas difficile, et aussi à Robert Hue. Et ça, c'est la seconde chose. J'ai trouvé que Le Pen était très bon, et j'ai trouvé Robert Hue très mauvais.
Si permettez-moi deux secondes,
sur les questions qui touchent à Lénine et au communisme à travers l'histoire. J'ai ce sentiment que Robert Hue est gêné. Sentiment d'ailleurs qui est doublé par le fait que je sais que Le Gallou au Parlement européen a répondu hier ou avant-hier, mardi, à un député communiste qui s'en prenait aux patriotes et lui a fait le bilan du communisme, etc. Et aujourd'hui, mercredi, l'Humanité dénonce ce comportement haineux, forcément haineux, de Jean-Yves Le Gallou, mais omet totalement tout l'aspect touchant à Lénine et au crime du communisme. Et là, je crois qu'il ne faut pas les lâcher à la culotte.
Et moi, je voudrais faire une réflexion de simple quidam, pas très intelligent, sur ce débat. Je voudrais que les techniciens de la télévision m'expliquent par quel miracle ils sont arrivés à obtenir ce résultat à l'image, qui faisait que Le Pen, qui fait à peu près 1m90, était plus petit assis que U, qu'on appelle le nain de jardin. Ça, je voudrais bien savoir comment ils ont fait. Ils l'ont assis sur des annuaires, le nain de jardin, ou quoi?
C'est possible.
Il faut dire quand même, c'est curieux.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que il faut savoir, des auditrices et auditeurs ne le savent pas ou l'oublient quelquefois, que quand on se rend dans ces chaînes de télévision, il y a toute une série de petits pièges ou de choses trappes assez simples. Par exemple, je m'adresse à vous. On ne me coupe pas le micro, bien évidemment, sur Radio Courtoisie. Ou on ne baisse pas le son du micro. Mais si on baisse le son du micro, quand je fais une réponse, par rapport à vous, vous êtes, par définition, avec une voix plus forte que la mienne. Donc, on vous entend mieux que la personne qui répond. C'est un principe tout simple, tout bête, mais avec lequel on procède systématiquement avec Jean-Marie.
Et dans cette émission, il y avait une chose qui était systématique, c'est que chaque fois que Le Pen prenait la parole, la caméra s'écartait de lui pour filmer les réactions de Léotard, de Hu, de ma mère.
Les yeux au ciel.
Alors Léotard qui levait les yeux au ciel, celui-là j'attends avec impatience qu'il lui arrive, ce qui lui pend au nez comme un sifflet de dessous, parce que vraiment il n'est pas très sympathique. Mais ma mère, Hollande et Sarkozy, alors on voyait leurs réactions, mais on ne voyait pas le visage de Le Pen en train de parler. C'était systématique.
C'est une pratique systématique qui avait d'ailleurs été la même dans un débat fameux avec Bernard Tapie. Quand Jean-Marie Le Pen parlait, on voyait les réactions de Bernard Tapie.
Ce qui
double la difficulté puisque l'on entend moins. On prête moins attention à la réponse de Jean-Marie Le Pen, et lui-même est contré par une petite gymnastique visuelle des adversaires qui lèvent les yeux au ciel ou qui pouffent de rire. Tout cela procède de techniques assez simples et qui fonctionnent systématiquement. Moi, je ne suis pas. On baisse souvent les sièges aussi. Ça, c'est une pratique.
Mais là, c'était évident.
Enfin, il y a tout ça, il y a tout un système. Je dois dire, dans ces méthodes totalitaires, moi, je n'ai pas toute la rouerie de ceux qui la pratiquent quotidiennement à notre égard ou à notre endroit.
D'autres questions. Vous avez beaucoup de questions sur le 3615 Libre Journal qui nous sont communiquées. Vous en avez beaucoup sur l'Irak.
Oui.
Pourquoi l'armée française ne veut pas intervenir dans l'éventualité d'un conflit contre l'Irak?
Je vois pas ce qu'on a à foutre en Irak. Enfin, véritablement, quel est le problème posé par l'Irak à l'heure actuelle? Quelles sont les raisons pour lesquelles Clinton veut absolument passer à tabac l'Irak, officiellement? C'est parce que l'Irak est censé détenir des armes nucléaires, ou préparer des armes nucléaires, et surtout détenir des armes chimiques. On est bien d'accord. Et avoir, ça c'est la raison première, et la raison annexe, et la raison concluante, c'est que ces armes chimiques sont détenus par un pays dont le chef d'État ne convient pas à la communauté internationale. On est bien d'accord. Je vous signale quand même, il faut attirer l'attention du public et des citoyens là-dessus. Ça veut dire que si n'importe quel pays du monde se donne un chef d'État qui ne convient pas à la communauté internationale, la communauté internationale se trouvera moralement investi, moralement autorisé, à passer à tabac ce pays pour l'obliger, sous prétexte de l'obliger à accepter un contrôle de son fonctionnement. Parce que, pour être clair, imaginez que des élections présidentielles anticipées dans une ambiance un petit peu agitée amènent au pouvoir Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous croyez que les Israéliens vont être contents ou que les Américains vont être contents? Et alors, est-ce qu'on imagine un seul instant que M. Clinton dise, écoutez, la France vient de se donner un dirigeant qui est un dirigeant nationaliste, nous n'acceptons pas cette solution, par conséquent, nous voulons contrôler les installations nucléaires françaises, les installations militaires françaises. Et nous voulons que la France reçoive nos inspecteurs. Est-ce qu'on va accepter ça? Évidemment pas. Alors pourquoi veut-on que les Irakiens acceptent ça? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette attitude qui consiste à croire que les Irakiens soient qu'ils sont des Arabes? Parce que c'est ça le fond du problème. Comme c'est des Arabes, on a le droit de leur faire n'importe quoi. Eux, ils n'ont pas l'arme nucléaire. Israël a l'arme nucléaire. Israël a des engins de guerre chimique et de guerre bactériologique. On le sait, comme les Irakiens. Mais personne ne propose d'aller inspecter les installations militaires israéliennes. Pourquoi?
Et la Chine?
Et la Chine et tout,
enfin, tant d'autres,
et tant d'autres
et
pays.
Tant d'autres.
Donc le problème, il est que à l'heure actuelle, M. Clinton, qui à mon avis est vraiment le personnage le plus abject que la politique internationale ait déféqué depuis des années, est en train d'essayer de monter une énorme opération de terrorisme contre un pays. Et il n'y a aucune raison, alors pour une fois que Chirac fait quelque chose de pas trop mal, il faut quand même le dire, il n'y a aucune raison que la France se prête à ce truc. Enfin, ça me fait penser...
Mais il n'est pas dit, permettez-moi de mettre un frein à votre optimisme, mais il n'est pas dit que Jacques Chirac ne change pas d'avis, car l'évolution en quelques jours est inquiétante. Il a eu quand même, il faut lui reconnaître au moins un mérite, c'est qu'il a reconnu du bout des lèvres ce que tout le monde sait grâce à Jean-Marie Le Pen, c'est c'est que le diktat américain et le comportement américain vis-à-vis de l'Irak ne touchent pour l'instant que les populations civiles. Et Jacques Chirac a quand même indiqué que tout conflit serait priorité des pertes humaines qui ne sont pas nécessaires. Mais la situation en Irak, ce sont des milliers, des dizaines de milliers d'enfants qui meurent dans des conditions épouvantables.
Alors, c'est en la plus, réalité un de des arguments pays. Utilisés par ceux qui veulent passer l'Irak à tabac, c'est l'argument des Kurdes. C'est-à-dire qu'on nous dit... Les Kurdes sont traités de façon inhumaine par les Irakiens, il faut les défendre au nom des droits de l'homme, au nom de l'humanité. C'est possible. C'est absolument possible. Personnellement, j'en sais rien. Je crois me souvenir effectivement qu'il y a eu quelques dégagements particulièrement durs pour les Kurdes, notamment des gazages complets de population par bombardement. Mais je me permets d'attirer l'attention de l'aimable assistance sur le fait que les Iraniens font exactement la même chose et les Turcs exactement la même chose et que personne ne propose d'aller casser la gueule aux Iraniens ou aux Turcs. Pourquoi uniquement Saddam Hussein ? C'est une bonne question quand même. Est-ce qu'au lieu de vociférer comme tous les crétins de cette planète derrière Goofy Clinton, on ne pourrait pas, nous, Français et patriotes, s'arrêter 5 minutes et réfléchir à cette question? Pourquoi lui spécialement? Pourquoi Saddam Hussein serait-il le seul dictateur de la planète à pas avoir le droit de faire ses petites affaires tranquilles chez lui, alors que par ailleurs, partout dans le monde, il y a des dictateurs infiniment plus redoutables que lui, infiniment plus violents, et pas seulement dans les pays à dictature apparente, aussi dans des pays où, soi-disant, les dehors de la démocratie sont observés. Eh bien, dans tous ces pays-là, il y a des dictateurs qui font ce qu'ils veulent, personne ne s'occupe d'eux, M. Clinton ne prétend pas du tout aller mettre de l'ordre chez eux. Il veut, lui, bombarder l'Irak. Il est décidé à le faire, quoi qu'il arrive, il le dit et il le répète. Je pose la question, pourquoi? Qu'est-ce que ça cache? Quelle est la raison occulte, secrète, cachée de cet entêtement à vouloir transformer cette région du globe en une dalle vitrifiée? Moi, je comprends pas ça. Je comprends plus exactement, je comprends trop bien, et l'explication me déplaît profondément, d'autant qu'on peut pas la donner à la radio. Voilà.
On vous demande si vous voulez parler des mouvements anti-front, notamment Place des Fêtes, dimanche dernier, et tous les dimanches et en général, avec l'attitude équivoque d'une dizaine de policiers en civil qui entouraient ras le front.
Mais non, mais c'est pas,
et puis
pas
Daniel,
équivoque.
Daniel, attendez, équivoque, je continue, je vous termine la question, elle n'est pas complète là. Daniel Mermet vient d'annoncer sur France Inter une semaine antifasciste à Amiens.
C'est-à-dire tant mieux, il a raison, moi aussi je suis antifasciste.
Où on va taper, oui, mais
sûr, comme royaliste, je suis
antifasciste. Les fascistes, c'est le Front National.
Bon, oui, ça les amuse, mais...
C'est à Amiens parce que la ville n'est plus communiste.
Oui.
Quand elle était communiste, il y avait une semaine antifasciste. Ouais, maintenant qu'elle n'est plus communiste, il y a eu une semaine antifasciste. Donc on voit l'évolution est importante, ça a tout changé. Alors,
en ce qui concerne l'attitude ambiguë des flics à la Place des Fêtes, elle n'est pas du tout ambiguë, l'attitude des flics. Les flics, ils ont un patron qui s'appelle Monsieur Chevènement. Et Monsieur Chevènement, et puis ses sbires, et ses collaborateurs, donnent des ordres. Et les ordres, c'est de ne rien faire qui puisse passer pour une protection du Front National, au contraire, tout faire pour que les gens du Front National soient amenés à se défendre, auquel cas on pourra dire que c'est eux qui ont attaqué. Il faut dire, on est entré dans un processus de criminalisation du Front National qui consiste à essayer de le pousser à la faute, j'ai dit tout à l'heure et je le répète, pour pouvoir dire, vous voyez, on ne peut pas faire autrement que d'interdire ce parti. Pourquoi ils veulent l'interdire? Pour des raisons morales, pour des raisons républicaines et démocratiques, pour des raisons citoyennes? Pas du tout. Pour la gamelle, c'est pas autre chose. C'est que tous, ils sentent très bien que le Front National va faire un score aux prochaines élections et que les places qui vont être prises par le Front National, c'est des places que les gens ne pourront pas avoir. C'est pour ça qu'on les entend sur toutes les radios, y compris celle-là, et sur toutes les télévisions, ces gens-là, venir répéter que le Front National, cacaboudin, c'est pas bien du tout, le Front National est raciste, tandis que eux, ils sont contre l'immigration clandestine, ça n'a rien à voir. Et qu'il faut compter sur eux pour régler le problème de l'immigration une fois pour toutes, alors que ça fait 40 ans qu'ils font rentrer l'immigration à jet continu dans le pays, sans rien faire pour l'arrêter, sans rien faire pour inverser les flux migratoires, et que chaque fois qu'il y a des élections et une campagne électorale, ils viennent nous expliquer sur cette radio comme sur les autres, qu'ils vont empêcher l'immigration, qu'ils vont faire le nécessaire, et que ça suffit maintenant, et qu'il faut arrêter, et que c'est plus tolérable, et qu'on n'en peut plus, et qu'on peut pas recevoir toute la misère du monde, moyennant quoi, dès qu'ils sont élus, ils en font venir encore plus, ils leur donnent encore plus de fric, encore plus de moyens, encore plus, ils font encore plus de lois pour les aider et pour les servir contre nous, avec notre argent, avec notre sueur, dans un pays qu'on a conquis, qu'on a gardé, qu'on a fabriqué, qu'on a défendu pendant des années et pour lequel nos pères sont morts. Alors, il y en a ras le bol. Je dis que les gens qui continuent à avaler cette calembredaine-là sont des crétins. Ce peuple est majoritairement constitué de crétins. Il faut l'admettre une fois pour toutes. Voilà. Et ceux qui sont pas des crétins, qu'est-ce qu'ils font? Ils votent Front National. Voilà. Alors, les salauds votent à gauche, les crétins votent pour quelqu'un, et les gens bien qui sont ni des salauds ni des crétins votent pour le Front National. C'est absolument lumineux. Et nous, on en a, comme dit Martial Bild, comme dit le slogan qui sera clamé le 21 février, on en a marre.
Vous savez d'où il vient ce slogan? Vous savez pourquoi on dit maintenant on en a marre? À la convention de Lyon, il y avait 3500 personnes dans la salle qui criaient on en a marre. C'est ce que dit Jean-Marie Le Pen à la députée Peulvast Berjal, ouais, à Mantes-la-Jolie, qui l'agresse. Car on va le voir lors du procès du 19 et du 20, c'est-à-dire à partir de jeudi matin, lors du procès de Versailles. Cette manifestation du 21 février sera la conclusion du procès mené contre Jean-Marie Le Pen, agresseur, alors qu'en fait il est l'agressé. Et quand il y a la fameuse photo où on voit Jean-Marie Le Pen au-dessus Madame Peulvast Berjal comme le loup en train de manger le chaperon rouge, c'est que le chaperon rouge en fait était avec une trentaine de ses copains de Ralph Front et s'en était pris à Jean-Marie Le Pen, à tel point que Jean-Marie Le Pen avait dû quitter sa voiture où il était seul avec son chauffeur et son garde du corps, alors qu'une trentaine de militants de Ralph Front donnaient des coups dans la voiture, etc. C'est ce qui a amené sa sortie. Jean-Marie Le Pen voit, avance pour commencer à faire son marché, rejoindre sa fille, et là, il voit une élue avec une écharpe, c'est la seule qu'il voit dans la masse de Ralph Front, et il la regarde et il lui dit « On en a marre de vos persécutions, de vos agressions, on en a marre ». Et là, c'est pour ça qu'on reprend la même chose. On est maintenant 5 millions d'électeurs du Front National, on est 5 millions à crier à la classe politique RPR, UDF, PSPC, on en a marre. Alors là, il y a une question assez drôle d'ailleurs que vous me donniez, Victoria, en me disant « Savez-vous que le 21 février, il y aura le match rugby France-Écosse, n'avez-vous pas peur d'être privé de monde ? » Eh bien, je dis que ceux qui regarderont le match rugby France-Écosse et qui se satisfont de regarder les jeux, eh bien, ils ne mériteront que ce qu'ils auront.
Ah oui,
voilà. C'est-à-dire qu'un jour, ils se retrouveront dans l'arène bouffée par les lions et là, les jeux, eh bien, seront faits. Non, je crois qu'on ne peut pas répondre à ça. Si on veut continuer à regarder les matchs de rugby plutôt que de venir manifester, eh bien, soit, c'est un choix. C'est un choix. Mais tout est une affaire de choix dans la vie.
Surtout que le soir, les gens qui ont regardé les matchs de rugby, Dieu sait que j'aime beaucoup le rugby.
Mais moi aussi, mais on peut l'enregistrer.
Mais le soir, ils diront « la France a gagné ».
Oui.
Car ils sont patriotes en plus.
Oui, tout à fait. Et je voulais vous dire aussi, parce que moi je suis un horrible optimiste, que quand je vois des militants de Ralph Front, et j'en vois de plus en plus, toujours les mêmes. On me dit, oh, ils sont de plus en plus nombreux. Non, ce sont toujours les mêmes. Dans un département communiste, le nombre de stipendiés, d'employés municipaux, du conseil général, etc., communistes, c'est-à-dire de gens qui sont payés par le conseil général, par les villes communistes, ce sont des dizaines de milliers de personnes. Vous entendez bien, des dizaines de milliers de personnes. Et le Front National, dans un département communiste, dispose de deux permanents dans les départements où il est le plus riche. De deux permanents, eux en disposent de dizaines de milliers. Donc c'est tous ces gens-là qui sont payés, qui viennent manifester. Ralph Front n'est que cela, ce n'est pas inquiétant. C'est pas un phénomène, c'est un phénomène totalement artificiel. Mais tant qu'ils auront Martine Le Hideux seul en face d'eux, ils sont perdus d'avance, je leur dis très très gentiment. Martine Le Hideux, c'est Balladur en puissance 100. Puissance 100. C'est
Balladur. Il faut que vous expliquiez quand même cette comparaison qui peut être prise en mauvaise part.
Ah non, mais c'est en mollesse, si vous mettez 100 barils de Balladur de mollesse, vous arrivez quand même à peu près ce que représente en capacité de réaction, de force et de vitalité Martine Le Hideux.
Ah oui.
Il leur faudra un millier de militants de Ralph Front pour l'empêcher de venir place des fêtes. Oui, croyez-moi, je ne mens pas.
Un auditeur qui était justement dimanche dernier place des fêtes avec Martine Le Hideux confirme qu'ils ont été agressés par les commandos de Ralph Front et que l'un d'eux a été blessé. Il ne voyait plus rien suite à une projection de gaz lacrymogène.
Mais ça fait 10 ans que le Ralph Front, 10 ans que Ralph Front, c'était notre ami Voot il y a au moins 10 ans, qu'il sur le marché de la place des fêtes était interdit. Ils étaient interdits. Ça fait 10 ans que nous y sommes.
Il faut dire que quand j'habitais dans le quartier, j'allais les voir souvent le dimanche. Ils sont extrêmement courageux.
Extrêmement.
C'est vrai, parce qu'il y avait 3-4 militants, dont 2 vieux messieurs, des dames, pas de la première jeunesse, et Voot, qui ne met pas sa, ses idées dans sa poche, son drapeau dans sa poche, et qui n'a pas non plus la langue dans la même poche, et ils sont là, ils étaient vraiment magnifiques de courage.
Ah oui, et quand ils répliquent, ne serait-ce qu'un petit peu, ils sont poursuivis par la justice. Mais vous savez, Serge de Bekech, ils sont des dizaines de milliers à travers toute la France à être courageux comme ça. Moi, j'ai des militants qui sont d'un courage, mais ce n'est pas là aussi, c'est pas pour dire, il y a dans les autres partis politiques des militants sincères. J'étais l'autre jour sur un marché, il pleuvait des trompes d'eau, il faisait 2 degrés, on était une quinzaine, donc on était vraiment très nombreux sur le marché, et d'un seul coup, je me retourne, et à côté de moi, il y avait un militant communiste qui était se protégeait derrière son journal en se disant ils sont 15, il y a leur tête de liste et moi je suis seul, je vais passer un mauvais quart d'heure. Malheureusement, heureusement pour lui, malheureusement pour nous, moi je suis incapable de m'en prendre à un militant quand il est seul. Et quand on est 15, il faut qu'il y ait réciprocité en nombre. C'est comme ça chez nous. C'est pour ça qu'on se met souvent d'ailleurs mais ce garçon-là, au-delà de ses opinions que je combats totalement, m'a paru sympathique parce qu'il est resté 20 minutes. Je pense qu'il a fait beaucoup d'huile, comme l'on dit, mais il est resté 20 minutes, et après, il est parti parce qu'il n'en pouvait plus. Bon, eh bien, nous avons, nous, des dizaines de milliers de militants qui sont comme ça, qui malheureusement ne bénéficient pas, eux, du comportement du Front National à l'égard de ses adversaires. Car quand ils sont 15 et qu'il y a un seul militant du Front National, ils s'abattent dessus, bien sûr, à 15. C'est ainsi, c'est la vie. Mais c'est ce qui nous différencie des barbares.
Mais quelquefois, c'est un peu difficile à vivre. Il y a une auditrice qui nous signale que dans le 14e, elle avait ouvert, elle a acheté présent, elle l'a ouvert. Un type est passé à côté de moi et a crié « saloperie » et a craché dans sa direction. Alors là, vraiment, ça devient de plus en plus difficile à vivre.
Oui et non. Oui, bien sûr que c'est difficile.
Le contraire
non,
arrive aussi.
Non, le contraire peut arriver aussi. Moi, je vois maintenant des embryons de ras ras-le-front, de ras-le-bolch, des simples individus que je ne connais pas du tout. J'ai jamais vu, qui d'ailleurs souvent sont pas dans la mouvance nationale, enfin avec leurs cartes dans un mouvement politique, etc., mais qui ont des réactions que j'appelle ras ras-le-front. Moi, je trouve que c'est que nous sommes dans la bonne voie. Quand je vois des militants du RPR qui ne m'adressent plus la parole, c'est que nous allons faire un bon score. Quand ils sont polis, c'est que la plupart du temps, c'est qu'ils pensent que nous sommes au tapis. Quand ils deviennent méprisants, ils savent l'être. C'est que ça va mal pour eux, et donc ça va très bien pour nous. Moi, je suis très optimiste. Bon, c'est vrai que la situation est des fois difficile à vivre. Nous avons des militants blessés, persécutés. La liste est effroyable. Elle a été réalisée pour le 21
février.
La liste est effroyable.
Et plus de 100 blessés graves depuis la création du Front National.
Oui.
C'est quand même étonnant.
Oui, mais de 0,75% à 16% dans le dernier sondage bidon, et à mon avis, plus que cela. Donc le petit bonhomme reçoit des coups, mais petit bonhomme, pas mort, il avance. Il finira bien par gagner, quand même.
Il faudrait mieux, oui. Ma bonne amie,
petite bête qui
d'autres
monte,
messages
qui monte. D'une manière générale...
On a le temps, ce soir, on est tranquille.
On reprend justement au Front de ne pas parler de son programme. Oh. Dans les domaines économiques, financiers, sociaux et fiscaux. Voilà, vous faites trop, messieurs, dans le commentaire anecdotique, et vous oubliez l'essentiel quand vous êtes invité dans
Je crois que le programme, les autres font exactement la même chose d'ailleurs.
Et puis, d'autre part, le programme,
il suffit de l'acheter.
C'est un argument qui me laisse
complètement fallacieux.
Je voudrais que l'on me donne aujourd'hui le programme de Lionel Jospin. Que l'on me donne le programme de François Léotard. Quel est le programme de François Léotard? Est-ce que l'on peut m'envoyer par courrier le programme de François Léotard? Il n'y a pas de programme.
Plus de fric.
Oui, c'est peut-être celui-ci. Alors que le Front National est le seul mouvement politique à avoir un programme politique, à avoir un programme qui ne change pas, dont les axes sont les mêmes depuis sa création, un axe national, populaire, social, républicain, et quand il est aux affaires, ils le mettent en application. On nous a fait le reproche pendant longtemps de souhaiter la préférence nationale, mais que c'était un vain mot et que nous ne l'appliquions pas. Nous l'appliquons. Quand on nous a reproché en disant « Oui, vous voulez baisser la fiscalité, mais ça, vous êtes dans l'opposition. Quand on est dans l'opposition, c'est facile à dire. » Nous avons pris 4 municipalités et dès que nous avons pu le faire, nous avons baissé la pression fiscale. C'est donc nous sommes le seul mouvement politique à avoir un programme politique constant, à le défendre de manière constante et quand nous sommes aux affaires, à le mettre en application. Que faut-il encore de plus? Quand Jean-Marie Le Pen fait un discours d'une heure et demie, comme il l'a fait encore à Avignon hier devant 2500 personnes, il est le seul à évoquer les questions de défense nationale, qui en parle encore dans ce pays, à évoquer les questions sociales, à évoquer les questions touchant à la culture. Il prend chaque soirée un thème particulier qu'il développe plus longuement. Quel est l'homme politique qui fait cela à travers ce pays? Il n'y en a plus aucun.
Bien sûr. D'ailleurs, il n'y a plus d'hommes politiques qui font des discours importants, qui font des meetings, qui font des réunions.
Le grand débat politique, c'est de se poser la question, est-ce qu'il faut 35 heures, ou 35 heures et demie, ou 36 heures? Alors ça, c'est le débat, médiatique.
Là-dessus, on connaît la réponse, c'est pas compliqué. Ils nous ont dit, je crois que c'est ça, hein, qu'on va créer avec la réduction de 39 à 34 heures, on va créer combien? 400 000 emplois. Ok, ça veut dire 100 000 emplois par heure. Comme il y a 3 millions de chômeurs, chiffre officiel, il faut supprimer 30 heures par semaine. Comme ça, il n'y a plus du tout de chômeurs. Et les gens travailleront 9 heures par semaine et tout le monde sera content. Moi, je crois que là, le débat sur les 35 heures, il est réglé depuis longtemps. Je ne comprends pas qu'on continue à perdre son temps. Il suffit de réduire la durée du travail hebdomadaire à 9 heures.
Feront-ils du travail ou de la présence? Ça aussi, ça reste encore...
9 heures de présence, c'est pas trop fatigant quand même.
Un commentaire, un auditeur. Personne n'a rien dit lorsque les USA ont lancé du napalm sur l'Indochine. En Irak, ils ont tué 200 enfants par jour et pour être sûr qu'il n'en reste plus, ils veulent recommencer. Il y a le blocus, donc...
Oui, enfin, c'est pas tout à fait vrai que personne n'a rien dit quand
ils ont... C'est ça la vertueuse Amérique, les Américains du gendarme du monde.
On a palmé le Vietnam, il y avait des manifestations partout dans le monde, et justement, c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est que les trotskistes et les communistes qui, à l'époque, manifestaient partout dans le monde contre l'agression américaine au Vietnam, alors qu'il s'agissait non pas d'une agression, mais d'un combat contre le communisme, pour empêcher le communisme d'avancer, car là-bas, ils ne tuaient pas des enfants au Vietnam, ils tuaient les petits hommes verts qui descendaient du Nord et qui étaient des envahisseurs et des agresseurs. Et c'est pas tout à fait la même chose. Alors, ce qui est curieux, c'est que les mêmes qui manifestaient il y a 30 ans contre l'agression, entre guillemets, américaine au Vietnam, aujourd'hui, ils applaudissent au génocide du peuple irakien par les bombes américaines.
Ah oui, on est passé
et
de Marx à Marx.
Qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde qui fait que ceux-là même qui jadis dénonçaient la barbarie américaine applaudissent maintenant à la même barbarie? Ça, c'est...
On est passé de Marx à Maastricht, et Robert Huss et Staline et Stallone. Hein.
Voilà.
Comme dit Jean-Marie Le Pen. Là, c'est Jean-Marie Le Pen, pas moi. Mais c'est bien.
C'est tout.
Quelqu'un nous demande, enfin nous parle des éléments du fils qui arrivent en force en France et fanatisent les jeunes musulmans dans les banlieues.
Oui, je sais pas, ça vous paraît sérieux? Moi, je crois pas ce genre de... Je crois que c'est...
Moi, je crois un peu, parce
moi,
que...
Moi, j'y crois un
donc,
peu.
Il y a les écoles qui sont tenues par vraiment des fanatiques musulmans.
Écoutez, il faut quand même être bien clair. À mon avis, pour fanatiser des jeunes gens, comme c'est le cas peut-être en Algérie, ou comme c'est le cas sûrement en Iran ou dans certains pays, il faut qu'il y ait un niveau de misère tel... que le jeune homme n'ait plus rien à perdre, en quelque sorte, et s'engage dans un combat terroriste en se disant, au moins, comme je vais crever, plutôt que de crever de faim, de crever de misère, je préfère crever pour Dieu et crever dans un combat pour la victoire de ma foi et de ma religion. Mais quand vous envoyez des gens d'Algérie en France, ils arrivent en France, dans les banlieues, ils crèvent pas de faim, les gosses des banlieues. Ils se baladent avec des Nike aux pieds, avec des baggy trousers, c'est-à-dire des gros pantalons larges à 700 francs le pantalon, avec des blousons qui valent 1000 balles, avec des casquettes à 200 balles. Ils ont dans les oreilles des baladeurs à 3000 balles. Ils se baladent sur des scooters à 10 000 balles. Ils sont bourrés de fric, ces mots. Mais bourrés de fric, pourquoi? Parce que ils gagnent de l'argent par tous les moyens. Ils ont le RMI, ils ont des aides, ils bouffent du McDo, ils boivent du Coca, ils sont complètement engraissés, ils sont aussi tarés, aussi dégénérés que les porcs qui pullulent en Amérique, qu'on voit qui font 400 kilos de graisse sucrée, comment vous voulez transformer ces gosses-là en fer de lance de l'islamisme? C'est une carabistouille, cette histoire-là. Ça tient pas debout, c'est pas sérieux, c'est pas ça la vérité. La vérité, le véritable danger, c'est qu'il y a effectivement une énorme immigration qui est lourde, parce qu'elle est nombreuse, mais elle présente pas de danger de délinquance particulière. Et elle présente pas de danger, en tout cas, de fanatisme religieux. Je n'y crois pas du tout. Je crois qu'elle est lourde. Ça, c'est une chose certaine. Et ce que je crois également, c'est que le véritable danger, c'est que ces jeunes-là, ils en veulent encore plus. Et c'est pour ça que la fin du Ramadan, quand même, qui a donné lieu au saccage d'un centre commercial dans la région lyonnaise, c'est un signe. Ça, ils en veulent encore plus. Qu'est-ce qu'ils ont volé? Ils ont volé, au cours du saccage du centre commercial, des téléviseurs, des postes de radio, des Walkman, et des choses comme ça. Je ne crois pas du tout à la fanatisation, si j'ose dire, islamiste de ces jeunesses-là. Pas du tout. Ça, je crois qu'on nous trompe totalement sur le danger islamiste. C'est un fantasme de Monsieur Pasqua. Ça l'arrange. Ça permet de dénoncer une cible précise. Et j'ajouterais que ça sert le système de la manipulation et de la désinformation, parce que je vous rappelle qu'on donne le même nom aux vieux messieurs et aux vieilles dames et aux jeunes gens, aux jeunes filles en jupe plissée et aux jeunes gens en blazer qui vont prier à Saint-Nicolas du Chardonnay, que aux terroristes du FIS et du GIA. On les appelle des intégristes. Et en France, systématiquement, le discours des ordures du genre Réseau Voltaire et compagnie, c'est de parler des intégristes religieux, du danger de l'intégrisme religieux. C'est-à-dire qu'ils utilisent les crimes des intégristes islamistes pour tenter de faire accroire qu'il y aurait le même danger potentiel chez les traditionnalistes en France. Il faut surtout pas rentrer dans ce discours-là, ça tient pas debout une seule seconde. Qu'il y ait quelques exceptions, c'est vrai, mais enfin les exceptions, on les connaît. On a vu le gars dans le Nord, là, qui a été... Bon, il y a un cas qui est allé faire son service en Algérie, qui là-bas a rencontré... C'est pas en France qu'il les a rencontrés, c'est au cours d'un service militaire en Algérie qu'il a rencontré des islamistes, il s'est fait bourrer le crâne, il est rentré en France et il a commencé à militer dans les mouvements islamistes. Mais en France, il n'y a pas de danger. Le danger, c'est plutôt pour eux d'envoyer des types qui sont des durs à la toile, des raids à la toile, et qui viennent en France et puis qui, au bout de quelques temps, découvrent les formidables délices de capou qu'il y a dans ce pays. Et vous savez, je crois que les exigences de l'absolutisme religieux islamiste ont beaucoup de mal à résister à une traversée de Paris en métro où pratiquement vous pouvez pas vous arrêter dans une station sans voir au moins 4 affiches pornographiques. Hein ? Donc le type le plus ferré à glace et le plus inséré dans ses certitudes religieuses, quand il a traversé Paris en long, en large et en travers, qu'il a vu 40 petites en mini-juve, et qu'il a vu 50 affiches pornographiques, et qu'il a vu 200 sex-shops, et qu'il a vu des bistrots, des trucs comme ça, il finit exactement comme le français moyen, c'est-à-dire qu'il devient un gros veau, voilà. Et le danger religieux, j'y crois pas une seule seconde. Au contraire, moi, je vais vous dire une chose. Je sais que je vais faire hurler, mais après tout, tant pis. Il n'y a pas de raison que je fasse de déplaisir qu'à mes ennemis. Je préférerais qu'il y ait beaucoup plus d'islamistes parmi la population algérienne et maghrébine en France. Beaucoup plus. Je regrette qu'il n'y ait pas beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de musulmans en France, puisqu'on n'a pas été capable d'en faire des chrétiens quand on était là-bas. Eh bien, au moins qu'on ait en France des musulmans, parce que des musulmans vrais et des musulmans sérieux, parce que les musulmans, vous voyez, les vieux musulmans, ce qu'on appelait dans le temps les vieux chibani, généralement c'est des types extrêmement sérieux, ils ont d'abord des principes, ils respectent la famille, ils respectent les femmes, ils respectent les enfants, ils savent se tenir, ils sont comme tous les gens qui ont une religion, voilà. Moi je préfère bien, et de loin, quelqu'un qui a une religion à quelqu'un qui n'en a pas. Voilà. C'est mon idée. Je n'ai pas forcé d'être de mon avis.
Non, moi, je partage pas totalement votre point de vue, loin de là. Non. Mais néanmoins, moi, je note avec vous, et c'est vrai qu'aujourd'hui...
Mais comme c'est moi le chef savoir... ici...
Oui, bien sûr. Mais je suis encore libre de le dire. Vous me permettez de le dire.
Je suis invité, quand même, alors.
Non, je partage pas totalement votre point de vue. Mais c'est vrai, aujourd'hui, que la question qui se pose, c'est pas de savoir si la jeunesse née de l'immigration, issue de l'immigration, se fanatise, ou elle est aux mains du FLN, aux mains du fils, etc. En fait, elle est jette aux mains de plus personne. Elle s'américanise dans ses comportements et elle n'a plus aucun repère et aucune valeur. Ce qui la fait la rend particulièrement dangereuse parce qu'anarchique et que c'est un produit de la société de consommation et qu'elle s'apparente souvent à des jeunes Français dans ce comportement-là. Il y a des jeunes Français qui ont acquis ce même comportement de ce que j'appelle la secte de Nike. Car aujourd'hui, il y a une secte, c'est les jeunes qui ont des Nike, alors c'est une grande virgule, et c'est une secte, vous prenez le métro et vous tombez forcément sur au moins un membre de la secte par wagon.
Il y a deux endroits où on trouve des virgules, un de ces endroits c'est les chaussures Nike.
Oui.
Tiens, une question qui est posée aux candidats Front National et responsables. Et,
tête de liste.
Dirigeant du Front, enfin, vous êtes un des dirigeants du Front.
Oui, oui,
Un des. Alors, j'ai un ami algérien qui n'a pas de papier depuis 6 ans, permis de séjour provisoire non renouvelé. Son père a fait 6 ans de guerre en 39, dont 2 ans de prison à Meaux. Le Front National accorderait-il un permis de séjour à une telle personne ?
Ce n'est pas parce que son père a été un soldat au service de la France que automatiquement la famille mérite d'acquérir la nationalité française. Bon, pas parce qu'on est fils de soldat qui a servi la France qu'on est soi-même directement un Français digne de l'être. Mais si cette personnalité, cette personne souhaite devenir française, c'est-à-dire qu'elle le mérite, non pas par son père, mais par son comportement individuel, si elle le mérite, ou bien évidemment si elle l'avait hérité, alors il est possible, il est même peut-être souhaitable que cette personne devienne française, ça sera le choix de la République. Mais j'attire votre attention sur le fait que nous ne sommes plus en situation de nous poser ce type de questions, car la situation qui est celle d'une automaticité d'acquisition de la nationalité française pour qui la demande globalement, nous place dans la situation de ne pas pouvoir accepter que la nationalité française soit donnée à des gens qui la méritent, puisque tout le monde peut l'avoir. Et si nous revenions à la proposition, notamment en matière de code de la nationalité du Front National, alors nous serions placés devant la situation de ne pas fermer la nation à l'acquisition de la nationalité pour d'autres. Bien évidemment, cette situation-là, personne ne la souhaite. Il y a des gens à travers le monde qui méritent de devenir français par leur comportement, leurs aptitudes, leurs attitudes, et s'ils souhaitent le devenir et qu'ils acceptent les coutumes, les mœurs, les traditions, l'histoire de notre pays, pourquoi ne l'aurait-il pas ? Mais comme nous la donnons à n'importe qui, nous ne pouvons plus faire ce choix. C'est un peu identique d'ailleurs pour les Antillais. Aujourd'hui, les Antillais devraient avoir dans notre pays une attitude non pas privilégiée, mais l'attitude qui est celle que l'on réserve à tout Français. Pas plus de droits, mais pas moins de droits. Et sûrement le droit de venir s'installer en métropole, prioritairement s'il le souhaite. Mais devant le poids de l'immigration, on place, pas nous, Front National, mais les gouvernements, placent les Antillais, Martiniquais, Guadeloupéens, dans la même situation que l'immigration quand elle arrive en métropole. Donc quand on arrive de Martinique et de Guadeloupe, alors que l'on est français, on pourrait trouver plus facilement un travail, un logement. Puisque l'on est français, eh bien, on est considéré comme un immigré à part entière, et donc on retombe dans une masse immigrée, alors que ceux-ci sont français. Et souvent, les Français, mais pas par racisme, mais par lassitude, finissent par considérer que les Antillais, doivent être considérés comme des étrangers, alors que pour moi, ils sont français.
Je signale que les Comoriens, qui sont les Comoriens de je vais y arriver, oui.
Je cherche le nom.
Ça y est, j'ai un truc. De Mayotte.
De Mayotte.
Les Mahorais sont français. Mahorais, c'est une terre française. Les Mahorais sont des citoyens français. Ils ne peuvent pas venir en France sans avoir un passeport. C'est curieux, quand même. Bon. Le problème, c'est que la préfecture de Mayotte refuse de leur donner des passeports. Alors, il n'aurait pas du tout interdit d'aller en métropole. Il suffit qu'ils aient un passeport. Et quand ils font une demande de passeport, on leur donne pas.
Oui, puisque on accepte en fait tout le monde, eh bien on n'est plus placé devant la situation de pouvoir choisir. Or, ce que demande le Front National, c'est qu'il ne refuse pas de donner la nationalité française, mais il veut avoir la liberté de choisir celles et ceux qui vont acquérir la nationalité française, c'est-à-dire qui vont avoir et recevoir une richesse énorme, puisqu'on va leur offrir par un bout de papier 2000 ans d'une histoire prodigieuse. J'ai un jeune Libanais qui travaille avec Martine Le Hideux, il se reconnaîtra, il s'appelle Joseph, qui vient d'acquérir
qui vient d'acquérir
la nationalité française. Il a une fierté, une joie. Il se promène avec ce papier et c'est une grande fierté pour lui.
Je trouve que
la nation française, est heureuse de l'accueillir parce qu'il est français, parce qu'il parle la langue française, qu'il en accepte son histoire, ses traditions et ses valeurs.
Le souvenir de Maria de Jésus Tabari.
Oui.
La femme de Clédor.
Oui.
Qui était portugaise. Quand elle a reçu sa carte d'identité française, qu'elle attendait depuis 10 ans, alors qu'elle était mariée à un citoyen français. J'ai le souvenir des larmes qu'elle a versées, c'était extraordinairement émouvant. Pour elle, c'était littéralement une nouvelle naissance. Alors là, on est pas de question à se poser sur l'intégrabilité de citoyens de comme ça. C'est évident que c'est des gens qui sont français du fond du cœur avant d'être français de papier. Et le problème, c'est qu'en France, il y a beaucoup de gens qui sont des français de papier et qui ne seront jamais des français de cœur.
Merci.
Mon cher monsieur Viala, on vous a fait... vous pouviez participer.
Mais je pouvais participer.
Sauf devant le supérieur hiérarchique, Marcel.
Oui, peut-être. Oui.
Non.
Le petit gars sur la couture du pantalon.
Non, ce n'est pas vrai. Il ne marche pas comme ça.
Alors, donc, je rappelle que vous venez nous faire, nous donner un aperçu chaque semaine du fonctionnement d'une d'une ville de la banlieue parisienne. On a vu avec vous les problèmes de la sécurité, les problèmes des associations culturelles, des associations cultuelles, les problèmes des subventions,
de la sécurité.
Et là aujourd'hui, vous nous parlez
de cette fameuse loi qui est la loi sur l'emploi jeune.
Voilà. L'emploi jeune. Alors, comme dirait le professeur Lacan, ça ne veut rien dire. Il faut dire l'emploi des jeunes.
Des jeunes. Mais le texte, c'est l'emploi jeune. Alors, il faut tout d'abord pouvoir admettre le paradoxe que tente de nous faire gober l'établissement politique en place avec la bénédiction du président de la République. À savoir, le premier devoir d'une nation est de produire pour être performant. Tout en réduisant le temps du travail et en invoquant une récession de celui-ci. Et en contrepartie, on nous affirme qu'il y aura du travail pour les jeunes. Il y a là, à mon avis, une ambiguïté qui tient de la démagogie et de la trahison nationale. Un pays qui réduit le temps du travail est, à mon sens, un pays qui décline. Une nation ne peut être forte que si tous les citoyens se lèvent chaque matin pour aller travailler comme ils le souhaitent et selon leurs besoins.
Mais encore faut-il qu'ils aient du travail.
Faut-il encore qu'ils aient du travail. Mais c'est un problème d'ordre mondial et surtout européen en ce qui concerne la France. Et non pas de justifier de 35 heures de présence comme on nous le propose. Et dans ces cas-là, on peut s'inquiéter de l'avenir de nos jeunes. Alors que souhaite faire le gouvernement de la gauche plurielle, qui constate quand même un échec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos jeunes ont beaucoup de mal à trouver du travail. Pourquoi ? Ben déjà peut-être parce que quand ils sortent du cursus scolaire, ils ont un niveau d'enseignement général qui est quand même de plus en plus faible. Les connaissances en lecture, en écriture, en mathématiques sont de nouveau très très souvent très réduites.
Mais attendez, mais ça c'est pas du ressort des municipalités, ce genre
et
de
si,
problème.
Parce que aujourd'hui les municipalités sont confrontées à une masse de jeunes sur leur territoire. Les jeunes viennent frapper à la porte du maire et cherchent du boulot.
Oui, mais les municipalités, elles sont en fin de course, en quelque
elles
sorte.
Elles sont en fin de course, c'est pour ça.
Elles n'ont aucun pouvoir sur l'amont. Alors, le fait qu'il y ait des jeunes sans formation, sans travail, sans qualification, sans habitude professionnelle, sans rien, c'est ce que constatent.
C'est un constat
les municipalités,
qui est fait
mais,
à la sortie,
qu'est-ce
effectivement.
Faire
alors, que font-elles? Alors, elles ont créé notamment des agences pour l'emploi. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à la structure ANPE, les mairies organisent des officines, moi c'est ce que j'appelle, où ils essayent de reprendre en main ces jeunes, leur apprendre à faire des CV, leur apprendre... Oui,
c'est
non mais...
C'est quand même formidable. C'est formidable. La première chose qu'on leur apprend, c'est à faire des lettres pour chercher du travail.
Chercher
alors
du
qu'ils
boulot.
Savent rien faire. Donc, tu peux toujours faire des lettres. À quoi ça sert?
Exactement.
Sinon, pas de qualification.
C'est ce qu'on fait aujourd'hui à Noisy-le-Grand. Aujourd'hui, on veut faire une officine qui couvre Noisy, mais le maire a des prétentions au-delà de la ville de Noisy, puisqu'il veut que ça soit rattaché à Neuilly-sur-Marne, que ça aille sur Gournay, en fait. Il veut gérer la jeunesse.
Je sors un peu du sujet.
Oui.
On dit qu'il... Enfin, pas tellement, mais on dit qu'il guigne un secrétariat d'État.
C'est exact.
Recréé à la
À la ville. Oui. Il pense peut-être faire mieux que Tapie. Ouais. Donc
ça va pas être difficile. Ça. Je crois peut-être ça devrait pas faire plus mal.
D'autres qualités. Donc en fait aujourd'hui ce problème d'emploi ville, il est constant à Noisy-le-Grand, il est constant, je vois, dans les grandes villes qui sont Lille, Rennes, Grenoble, où on s'aperçoit que les jeunes sont en fait sur le tapis avant même d'avoir commencé à chercher du travail. On sait aussi que les entreprises, malheureusement, aujourd'hui n'ont plus les moyens de former ces jeunes, c'est-à-dire de les préparer à l'avenir, même en les prenant comme petits compagnons, puisque en fait les entreprises, elles, ce qu'elles ont qu'une chose à faire, c'est de ne pas faire de charges sociales de manière à pouvoir tenir le coup. Donc on est confronté à un problème très grave, c'est-à-dire que le privé, toute cette petite masse de PME et de petites entreprises ne peuvent pas assurer le relais qu'elles avaient il y a 25 ans ou 30 ans, c'est-à-dire prendre une masse de jeunes et en faire peut-être des futurs patrons. Aujourd'hui, le fait est certain, c'est qu'une grande entreprise, en comparaison, elle, peut tout simplement ne pas payer ses charges et rester de toute façon dans la légalité la plus complète, puisque elle fera valoir sa masse de personnes qu'elle risque de déposer sur le trottoir le jour où elle est mise en redressement, et là on efface la dette, ce qui n'est pas le cas des petites entreprises. Alors l'État a donc décidé, pour caser tous ces jeunes, de créer cette fameuse loi, qui est une loi qui a été réglée par des décrets d'octobre 97. Il y a une loi, il y a un décret, il y a une circulaire pour mettre en place le développement d'activités pour les jeunes.
Et ça donne quoi,
ça? Alors, ça donne, et ça va donner, puisque c'est déjà déjà en route, je parle de Noisy-le-Grand, c'est fait. Le maire, déjà, fait de la prospection et recherche donc de la main d'œuvre. Il faut savoir que ces contrats seront sur une durée de 5 ans. Ils seront applicables à des jeunes de 18 ans à 26 ans au plus. Ça veut dire qu'un type de 26 ans, ce qu'on considère qu'à 26 ans, on est encore gamin aujourd'hui. En général, on était adulte il y a 30 ans. Aujourd'hui, on est encore jeune et gamin. Donc ça veut dire qu'un type de 26 ans, à 31 ans, il sera toujours sous le couvert de l'État, puisqu'il sera en fait payé par l'État, par une entreprise. Et ce ne sont pas des entreprises, parce que les seuls organismes qui pourront bénéficier de ces emplois sont les collectivités publiques, les mairies, les conseils généraux, les associations, les établissements publics, les organismes de logements sociaux et les sociétés de transport urbain. Donc en fait, on voit bien...
On est en train de nous recréer une collectivisation.
Voilà, on nous recrée une collectivisation. Et cette approche va être réglée de deux manières. C'est-à-dire qu'il va y avoir les bons, ceux qui auront eu la chance d'avoir le bac plus 2, et Martial en parlait la semaine dernière, c'est-à-dire ces jeunes qui ont eu la chance d'avoir un environnement parental et familial suffisamment adapté pour les aider à faire des études, avoir le courage de les réaliser, donc vont pouvoir postuler dans des postes intéressants. Et en contrepartie, les villes vont, les mairies surtout, vont surtout faire en sorte de sauver leur fameux quartier sensible. Et alors là, on va drainer une population, les meilleurs des zones sensibles, c'est-à-dire les fameux grands frères qui savent parler aux autres, ceux qui savent effectivement vivre au sein de cette société difficile que nous avons, pour en faire, en fait, ceux qui seront là pour charger de la surveillance, des relations entre les gens dans les quartiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'avec un passé judiciaire, on deviendra quelqu'un de très important, puisqu'on sera le public relation entre la société et la ville.
Quand on peut, si on veut pas un bac plus 3, il y a santé pour...
Voilà, il y a santé ou centrale. C'est une manière ou une autre de voir les choses. Et puis, entre les deux, va rester toute cette populace de jeunes gens, c'est-à-dire ce que j'avais pensé appeler, mais c'est pas péjoratif, c'est-à-dire les enfants de Dupont, des Martins, qui ont, effectivement, sont des parents qui peuvent pas aider leurs enfants comme ils le souhaiteraient, et qui en fait, restent avec leurs problèmes, parce que ces enfants-là ne seront pas aidés sous prétexte qu'ils ne seront pas en haut de l'échelle ou trop descendus trop bas.
Donc, c'est la réponse. Vous revenez la semaine prochaine, Guyviala, pour parler d'un autre sujet, mais là, c'est une réponse apportée à l'auditeur ou à l'auditrice qui, tout à l'heure, demandait en quoi les franchouillards, finalement, subissaient une discrimination négative. Et ben là, vous venez de donner un exemple, effectivement, qui est tout à fait lumineux. On est à la fin, donc je vous demande de revenir la semaine prochaine.
D'accord,
on peut réaborder le sujet.
On en reparlera la semaine prochaine.
Avec Martial Bill. La semaine prochaine, Martine Le Hideux sera avec nous. Également entouré, encadré de Faris Mahi et de Jean-Pierre Cohen. Vous voyez que vraiment on fait, on peut pas faire plus varié. Merci de nous avoir écoutés. Je laisse la parole à Victoria pour les annonces qu'elle avait à faire.
C'est tout late.
Non, après.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez un libre journal de Serge de Bekech, dirigé en cette seconde partie par Daniel Amiche, assisté de Marie. Document d'archives du 18 février 1998, rediffusé dimanche 18 décembre 2011 dans la nuit de 2h à 5h. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Victoria, je vais vous donner la parole tout de suite pour vos annonces, mais je voudrais quand même répondre à deux ou trois...
J'ai une question aussi.
Ah ben alors, allez-y, voilà. Déposez votre question.
Ça, c'est une question simple. J'habite le 18e. Voterons-nous à Paris pour les régionales? Car à part des documents du Front, je n'ai rien trouvé d'autre dans ma boîte aux lettres.
Ben oui, je pense. Enfin, il fallait demander ça.
Non,
oui,
non, mais on vote pour les régionales. Ah, on vote pas pour les cantonales, mais on vote pour les régionales. C'est Martine Le Hideux à Paris qui est tête de liste.
Alors oui, c'est pour ça que j'aime bien le 36-15 Libre Journal, parce qu'il y a des gens qui pourraient pas s'exprimer au téléphone, parce que probablement ils arriveraient même pas à parler tellement ils sont en colère. Alors ils tapent sur le Minitel, ça les défoule. Il y a un monsieur ou une dame, je sais pas qui dit, c'est une honte que des personnes comme vous puissent lancer leur venin dans un pays qui a subi l'horreur fasciste. Carrément, hein. Anarchie vaincra. C'est joli comme l'antique. Ça existe encore, c'est trop mignon les anarchistes. Moi j'aime, vous savez, un anarchiste c'est quelqu'un qui a une si haute idée de l'ordre qu'il n'en accepte pas la caricature. C'est beau, j'aime beaucoup les anarchistes.
Organisons l'anarchie.
Vous mentez. L'Irak seul est un agresseur dangereux, il l'a prouvé contre l'Iran et le Koweït. En revanche, la Turquie, Israël et l'Iran n'ont envahi aucun pays. Alors là, monsieur, je pense qu'il faut que vous changiez votre poste de radio, parce que, à mon avis, vous devez avoir encore un poste à galène. Pour autant que je sache, plus simple, vous interrogez sur la Turquie, vous interrogez les Grecs, et notamment les Chypriotes grecs. À propos d'Israël, vous interrogez les Libanais du Sud. Ils vont vous expliquer qu'effectivement, Israël n'a jamais envahi aucun pays. L'Iran, je sais pas si l'Iran envahit un pays, enfin probablement, il doit avoir en projet de le faire. Non, c'est pas très sérieux. Israël ne cesse de dénoncer l'Iran comme son ennemi le plus dangereux. Or, les relations entre ce pays et les États-Unis ne cessent de s'améliorer. Donc, arrêtez vos insinuations contre le lobby juif. Vous n'êtes qu'un frustré complexé. Voilà. C'est peut-être pas très clair, mais c'est probablement pas très gentil non plus. Que pensez-vous des mosquées qui se multiplient, des femmes voilées et des djellabas? On ne voit plus que ça sur Aulnay et alentour. Amitié à toute l'équipe, nous dit un auditeur. Je ne veux pas revenir sur le sujet, mais je pense que si les mosquées se multiplient, c'est pour une raison très simple. J'avais déjà dit d'ailleurs, quand il y a eu des manifestations contre la mosquée du 19e, je ne suis pas partisan d'interdire les mosquées en France. Il y a une population musulmane en France, je vois pas pourquoi on lui interdirait de pratiquer sa religion. Je pense qu'il faut autoriser la construction de mosquées officielles. Tant qu'on interdira les mosquées officielles, on va se voir se multiplier les salles de prière n'importe où, dans les arrière-salles de café, dans les garages, dans les boutiques, dans les appartements et tout, ce qui n'est pas digne, ce qui n'est pas ce qui ne reconnaît pas la la dignité des musulmans, qui sont aussi dignes que n'importe qui, et ce qui constitue effectivement un éparpillement dangereux et pas souhaitable. Quant au djellaba et aux femmes voilées, je vais encore vous faire un aveu. Personnellement, ça me gêne pas du tout, et je pense que ça doit pas gêner non plus beaucoup mes copains pieds noirs, parce que je vois pas pourquoi on était très contents de vivre parmi des populations voilées en djellaba, en babouche et en chechia quand on était en Algérie, et pourquoi aujourd'hui on serait choqué par ce spectacle. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Voilà. Ça me dérange quand c'est un crétin de français qui se déguise avec une djellaba, parce que ça arrive. Alors lui, il a l'air plus d'un CON que d'un moulin à vent, c'est certain. Mais si c'est un maghrébin, il porte la tenue traditionnelle, et personnellement, j'y vois aucun inconvénient. Voilà, ma bonne dame, j'ai fini de jeter mon venin fasciste. Je vais vous laisser la parole pour vos annonces qui, je l'espère, ne seront pas
fascistes. Petit trait d'humour d'une vieille dame qui passe souvent place des fêtes. Elle apostrophe les ralfrons en leur disant « Rasez, rasez, ça repoussera plus de rue. » Et le temps qu'ils comprennent, elle est déjà loin.
Oui, ça, un dernier mot, pardon. Comme Jean Madiran était souffrant et n'est pas venu parmi nous, j'en suis bien navré, mais on fera ça plus tard, je voudrais simplement vous recommander de lire son livre qui est... petite merveille, ça s'appelle Le Monde et ses faux. Et c'est paru aux éditions de Présent, et vous pouvez donc le commander où donc ça se commande, cette affaire-là, aux éditions de Présent, chez Diffralivre, bien sûr. Alors l'adresse de Diffralivre, je ne l'ai évidemment pas de mémoire. C'est où? Regardez.
Maul.
Quel numéro?
Numéro ça.
Ouais. À Maule, Diffralivre, Maule. Voilà, Le Monde et ses faux. Mais vous pouvez aussi commander probablement en écrivant 5 rue d'Amboise à présent, voire en téléphonant à présent. Et ça, une fois que vous avez lu ça, vous réagissez exactement comme Brignot qui avait dit « Je ne vais plus oser lire Le Monde, je vais avoir peur d'être inculpé pour usage de faux ».
Et alors, un petit bilan de Jean-Pierre Blanchard, président de l'Entraîne Nationale. Pour leur campagne d'hiver, ils ont distribué cette année 14 000 repas et 3 tonnes de vêtements, alors que l'année dernière, ils en avaient distribué 10 000 et 2 tonnes de vêtements. Et ils continuent, donc ils continuent à recevoir volontiers les dons que vous pourrez faire. Et puis, quelques précisions pour la manifestation de Versailles, le samedi prochain. Alors, on nous dit que la place de la Loi se trouve sur la route nationale Saint-Germain-Versailles, exactement à la limite des communes du Chesnay et de Versailles. Et je rappelle le numéro, si vous voulez des renseignements pour savoir comment y aller, c'est le 01 41 12 50 00. On nous précise aussi que pour Beljanski, quand on écrit, c'est 4 timbres à 3 francs qu'il faut envoyer. Et puis, alors, pour les radios et les
l'adresse, télés... L'adresse de Beljanski, vous pouvez l'avoir sur
le 3615 Libre Journal, où vous avez d'ailleurs tous les renseignements possibles sur les manifestations à venir. Il y en a dont je n'ai pas parlé, parce que c'est au mois de mars, il faut pas tout mélanger, donc on le fera la semaine prochaine. Et puis, alors, dimanche 22 février, sur France 3, à 22h30, Christine Ockrent et Gilles Leclerc reçoivent dans leur émission dimanche soir Bruno Maigret. Le mercredi 18, c'est-à-dire ce soir, Bertrand Badorc, adjoint au maire de Toulon, chargé de la police municipale, sera à la marche du siècle, dont le thème est précisément la police municipale. Et mardi 24, Bruno Gollnisch sera sur Europe 1 au débat de 18 à 19h.
Et on ne voit que...
Ils sont partout.
Ils sont partout.
Voilà.
Merci Victoria, bonne semaine, que Dieu nous garde.
Amis auditeurs, bonsoir pour cette seconde partie du journal de Serge de Bekech, plus libéral que jamais ce soir, comme l'ont reconnu nos auditeurs. Ce soir, c'est une soirée un peu particulière, parce que c'est une soirée où on va parler avec des personnes de qualité qui ont des choses intéressantes à dire, mais nous n'allons pas parler ni de livres, ni de disques, ni de pièces de théâtre. Nous allons parler d'une célébration souhaitable avec Pierre-Louis Malin, qui est un ancien diplomate, qui est un membre correspondant de l'Institut, et qui souhaiterait entretenir nos auditeurs d'une initiative qu'il souhaiterait prendre, puisque cette année, nous devrions célébrer, en principe, puisque ça tombe, 1998, le 900e anniversaire de la délivrance des lieux saints par les croisés. J'ai regardé avant de venir ici à beaucoup d'attention le gros volume, enfin le volume assez substantiel que produit la commission commémoration nationale, n'est-ce pas ? Ça y est pas, ça a été oublié. Alors nous allons en discuter avec Pierre Malin, sans, on va pas trop s'interroger pour savoir pourquoi ça n'y est pas, mais plutôt de savoir comment s'y prendre pour que ça existe, pour quelque chose se réalise. Et je crois que vous avez beaucoup d'idées à ce sujet. Nous allons être tout à fait heureux de vous entendre. Puis ensuite, nous recevons alors trois mousquetaires. Jean-Louis Caffarel, que connaissent déjà, je pense, nos auditeurs, qui est le directeur du mensuel La Durbelière. C'est une espèce de hérissant du royalisme. C'est-à-dire que lui, il fait des journaux avec des tas de suppléments, mais ces journaux, à lui, sont gratuits, contrairement à celui de M. Hérissant, qui était payant. Enfin, payant pour M. Hérissant, évidemment. Mais... Alors, il est accompagné ce soir de Franck Lechouan, qu'on a déjà entendu, hein, je crois, ici. Vous êtes déjà venu nous faire une petite salutation un jour.
Oui, disons que j'ai tendu l'oreille.
Voilà, vous étiez là, non ? On a entendu le son de votre voix. Hein. Alors, qui fait partie du trust de presse de M. Caffarel, et lui édite un supplément qui s'appelle Cœur de Chouan. Absolument. Et... Le concern ne cessant de grossir, nous avons ce soir un troisième invité, la personne de Jérôme Grolier, qui lui anime un autre supplément de la Durbelière, qui s'appelle Chouan Cavalerie, que plutôt destiné aux cavaliers de tradition.
Oui, tout à fait.
Voilà, il va y avoir beaucoup de choses intéressantes à raconter là-dessus aussi. Alors donc, si vous avez des questions à poser à toutes ces personnes, maintenant, pendant l'émission, de préférence, parce qu'après ce sera quand même un peu difficile, on sera plus là, on sera couché, vous pouvez nous téléphoner bien sûr au 01 46 51 00 85, vous pouvez nous télécopier vos questions au 01 46 51 21 82, ou bien passer par le service Minitel de Serge de Bekech, qui s'appelle le 36 15 Libre Journal. 36 15 Libre Journal. Alors, vous pouvez d'abord retrouver le nom de tous les invités que nous recevons au cours de ces émissions, puis également passer des messages qui nous arriveront de façon dactylographiée au lieu de nous arriver de façon manuscrite. Mais je manquerai bien sûr à tous les égards qui sont dus au beau sexe, si je ne salue pas, la présence de Marie, avec une petite mine quand même. Hein.
Bonsoir Monsieur Amiche, hein, bonsoir à tous les auditeurs.
Monsieur Amiche, parfait, 10 ans de plus, voilà, alors ça va Marie, oui.
On fait aller.
Vous êtes content d'être ici quand même.
Bien sûr, toujours.
Bon, alors écoutez, merci d'être là, puis c'est vous qui aurez le bonheur de lire les messages des auditeurs. Entendu. Car il y aura des messages, comptez-y. Alors je voulais quand même vous faire deux petites annonces. D'abord, comme il est accoutumé, je voudrais vous inviter à vous joindre aux rencontres culturelles de Paul Bilaire. La prochaine aura lieu donc ce samedi prochain, samedi 21 février. J'en avais parlé avec un peu d'enthousiasme la dernière semaine. Effectivement, c'est très intéressant, puisqu'il s'agit de visiter le Carmel de Saint-Denis. C'était le Carmel dont Madame Louise de France avait été la supérieure. Enfin, elle est restée très très longtemps au Carmel. Louise de France était une fille de Louis XV. Madame dernière, qui est devenue carmélite, qui a été déclarée vénérable à la fin du 19e siècle, et dont l'héroïcité des vertus vient d'être rendue publique par notre Saint-Père le pape Jean-Paul II en décembre de l'année dernière. Donc elle est sur la voie de la béatification. Alors, le Carmel de Louise de France, fille de Louis XV, est très bien reconstitué au musée d'art et d'histoire de Saint-Denis. Ça, j'y suis allé moi-même, donc je peux vous dire que c'est absolument superbe. Le rendez-vous vous est donc fixé le samedi 21 février à 14h45 à l'entrée du musée qui se trouve au 22 bis rue Gabriel Péri. Alors, le métro, c'est Saint-Denis, Porte de Paris, Grand Stade, parce que maintenant, c'est à rallonge. Ça rallonge beaucoup. Donc, c'est Saint-Denis, pas Basilique, c'est avant. Porte de Paris, ça s'appelait autrefois, maintenant ça s'appelle Grand Stade. parce que c'est là qu'ils ont fait le grand stade.
C'est grand.
Qui a eu, d'ailleurs, il y a eu une inauguration il y a pas très longtemps. C'était France-Espagne, je sais pas contre qui, mais enfin c'était France-Espagne en tout cas. Voilà. Mais vous pouvez également vous rendre le samedi suivant, c'est-à-dire le 28 février, le dernier jour du mois, si mes calculs sont bons. Et cette fois-ci, il sera question des animaux dans la littérature, de Bernardin de Saint-Pierre à Victor Hugo, en passant par Lamartine, Vigny, puis après Victor Hugo, le comte de Lille, Pierre Loti, Alphonse Daudet. Donc rendez-vous, vous est fixé le samedi 28 février à 14h45 au café La Championne, 21 boulevard de Bonne Nouvelle, et le métro, c'est Bonne Nouvelle. Et puis, également, je voulais vous signaler la tenue le mercredi 18 mars, donc c'est encore dans quelques temps, dans un mois, j'aurai l'occasion, je pense, d'en reparler, de la vente dédicace de l'Association des écrivains catholiques, le mercredi 18 mars 1998, bien sûr, de 14h à 20h, dans les locaux de la mairie du 6e arrondissement, place Saint-Sulpice, métro Saint-Sulpice. Alors vous y retrouvez beaucoup de personnes que vous connaissez, qui sont, beaucoup d'entre elles sont venues à ce micro, soit chez moi, soit dans leurs propres émissions, puisque nous avons le bonheur de rencontrer Brigitte Level, également Isabelle Moural, qui sont titulaires, on peut dire, c'est le féminin de titulaire, non ?
Oui, tout à fait.
On dit pas titulatrice quand même, il n'y a pas une loi qui va nous obliger à être titulatrice, non, alors qui sont titulaires de livres journaux sur votre radio préférée, puis beaucoup d'amis que vous connaissez également, Yvan Gobry, Denis Lancel, Gérard Leclerc, Jacques de Bourbon-Busset, Jean Pourdarias qui est venu souvent ici à Courtoisie, Étienne Couvert, alors je lis au fur et à mesure, Monique de Bertas, que connaissent aussi nos amis, le Père Mansour Labaki, que nous aimons beaucoup, qui d'autre, Jean Roland, le révérend père de Marjorie, Xavier Martin, Louis Millet, le cher ami Louis Millet, beaucoup de personnes de qualité font partie de cette association, viendront dédicacer leurs livres. Cette association était sous la présidence de Marie Schumann, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques semaines. Et c'est bien dommage. Et c'était très troublant d'ailleurs d'entendre sur Radio Courtoisie l'émission Dommage qui lui a été consacrée lundi soir, puisque c'était la dernière émission de radio qu'il ait faite. Et c'était sur Radio Courtoisie. Et c'est intéressant de noter qu'une des premières émissions de radio qu'il ait faite, c'est à Londres.
Bien lui.
Depuis les studios de la BBC, et que la dernière, il l'a faite à Radio Courtoisie, qui est aussi la radio du pays réel.
C'est de la francophonie. Vous me permettez.
Pierre-Louis Malène, bien sûr.
C'est une coïncidence de pur hasard, naturellement. Mais on y voit quelque chose de providentiel. Parce que quand nous écoutons Radio Courtoisie, nous sommes dans le même état d'esprit que nous étions pendant la guerre, lorsqu'on écoutait la BBC. C'est la même chose. Ce n'est pas tout à fait interdit, il n'y a pas la Gestapo qui surveille si nous écoutons.
Il y a une police de la pensée qui surveille attentivement.
Il y a une politique suffisante pour que les gens ne s'en vantent pas.
Bien sûr. Je salue d'ailleurs la police de la pensée qui est actuellement à l'écoute.
L'impression de parler pendant qu'on est occupé. Alors à l'époque, j'aurais été occupé pendant 4 ans. La France a été occupée pendant 4 ans par les socialistes qui se disaient nationaux. Et maintenant, ce n'est plus la France, mais c'est l'État qui est occupé par les socialistes qui ne se disent pas nationaux.
J'aime beaucoup cette expression et je vous en félicite, monsieur Malherbe. Merci beaucoup. Alors voilà, donc j'ai fait, mais je redis encore une fois, donc l'avant dédicace des écrivains catholiques, le mercredi 18 mars, malheureusement en l'absence de Marie Schumann, mairie du 6e arrondissement, de 14 à 20h, le métro le plus près, c'est Saint-Sulpice, voilà. Donc j'espère que vous irez nombreux, et puis nous en reparlerons de toute façon dans les prochaines émissions. Pierre-Louis Malène, je vous remercie beaucoup donc d'être parmi nous, d'avoir fait cette utile mise au point à l'instant, et je vous remercie surtout d'avoir eu la gentillesse de m'appeler pour me proposer quelque chose. J'avoue, peut-être j'y aurais pas pensé si vous m'aviez pas mis la puce à l'oreille.
Ben oui, je suis peut-être orienté pour ça, parce que outre l'intérêt que je porte à ce genre de choses depuis toujours, j'ai l'honneur d'être membre de l'ordre du Saint-Sépulcre. Je suis chevalier du Saint-Sépulcre. En cette qualité, j'ai fait bien sûr un pèlerinage, j'ai même fait 2 fois le pèlerinage en Terre Sainte avec mes confrères. Et la dernière fois que je suis allé, il y a quelques années, mon attention avait été attirée sur cette date que j'avais apprise, comme tout le monde, mais oubliée, je n'y pensais plus. C'est-à-dire que la Jérusalem a été prise par les croisés, donc c'est le début de la délivrance de la Terre Sainte, le 15 juillet 1099.
Alors je me suis dit, ben, nous, à cette époque-là, c'était il y a quelques années, j'ai dit, nous sommes pas très loin de 90, de 1999, ça sera le 9e centenaire, sapristi, ça peut se fêter, cette chose-là. Alors depuis, j'ai essayé de le faire, à vrai dire, j'ai proposé au Vatican, enfin au pape, par l'intermédiaire du grand maître de notre ordre, qui est un cardinal, qui avait approuvé tout à fait, que j'avais vu, qui m'avait encouragé à le faire. J'ai fait un mémoire pour proposer, mais c'était il y a plusieurs années, des manifestations énormes couvrant toute la chrétienté. Je suis allé à Rome depuis, et bien sûr, j'ai été reçu au Saint-Siège, et j'en ai reparlé aussi. J'ai trouvé ça une idée excellente, mais c'est ce qui les ennuyait, c'était que 1199, c'est à côté de l'an 2000, et vous savez qu'on prépare des manifestations pour le monde entier à l'échelle énorme pour le deuxième millénaire de la naissance du Christ et du début de la chrétienté. Et c'était un peu trop près, ça se carambolait. Alors on m'a consolé en me disant qu'on ferait quelque chose en l'an 2000, etc. En 99, d'ailleurs, avec les chevaliers Saint-Sépulcre français, je compte retourner à Jérusalem. On ira, comme disait l'autre jour le lieutenant de France de l'ordre, le général comte d'Harcourt, nous irons prier pour les croisés. Quoi, il doit plus en avoir besoin, mais ça fait rien. On peut toujours aller prier pour eux.
De toute façon, c'est pas perdu. Les prières ne sont jamais perdues.
C'est jamais perdu. Puis la notion de temps, n'est-ce pas, ne joue pas dans ce domaine. Bon, alors voilà, ce projet donc grandiose que j'avais fait, j'avais étudié, mais dans les détails, n'en parlons plus. Mais il n'y a pas longtemps, l'année dernière, je me suis dit, sapristi, on peut quand même faire quelque chose. De moins important, mais on peut faire quelque chose. Alors, je suis intervenu à temps, puisque c'était en octobre 97. Depuis, la chose suit son train, et il s'agit de pousser à la roue, et c'est ce que nous allons faire avec votre permission. Mon idée était la suivante. D'abord, je vous le dise, pourquoi on va célébrer? Pourquoi il faut le célébrer? Qu'est-ce qu'on va célébrer exactement? Et puis, quelles sont les objections et comment on peut leur répondre? Ensuite, je vous dirai de quelle manière on peut le faire. C'est un aspect, malgré tout, secondaire, mais c'est là où je fais l'appel à tous les auditeurs pour qu'ils m'aident. Alors, pourquoi le célébrer d'ailleurs? Donc, c'est un grand événement, mais pourquoi est-ce que c'est la France qui devrait le célébrer? Eh bien, parce que, bien sûr, c'est un événement qui intéresse toute la chrétienté, que le souvenir des croisés, puisqu'il y a eu des membres de toute la chrétienté qui sont membres de ces croisades. Mais la France, dans la première croisade au moins, celle dont nous parlons, a joué un rôle capital, c'est cela qu'on oublie. Pourquoi la France? Mais pour deux raisons principales. Première raison, c'est un Français, le pape Urbain II, qui décida de mettre fin aux obstacles récemment élevés contre les voyages des Occidentaux par les nouveaux maîtres de la région, qui étaient les cruels Seljoukides, horde sortie de la steppe kirghize, qui s'était brutalement imposé aux musulmans arabes et qui faisait peser sur l'Occident un danger, une menace terrible, notamment depuis la défaite qui avait eu lieu le 19 août 1071. Des Byzantins, c'est-à-dire ce qu'on appelait les Grecs, enfin les gens de Byzance, de Constantinople. Les Byzantins ont été battus dans un endroit qui s'appelle Malasgerd, et René Grousset de l'Académie française, qui a été le grand historien des croisades, écrit à ce propos de cette bataille que nous avons bien oubliée, c'est un des pires désastres de l'histoire européenne. Alors, donc, on était dans cette situation-là. Et c'est un champenois qui s'appelait Eudes de Châtillon, qui est en 1088, est élu pape. Et il prend le nom de Urbain II. C'est un champenois français. Alors, à ce moment-là, il y avait un problème d'actualité. C'était que l'année précédente, on avait appris avec terreur, pensons à nos craintes quand nous avons appris, nous, à notre époque, que Staline préparait ceci ou cela, ou même un peu avant qu'Hitler. Bon, eh bien, c'était le même état d'esprit qu'avaient nos prédécesseurs. Quand ils ont appris, donc, l'année précédente, en 1087, que le troisième sultan Seljoukide, les Seljoukides avaient fait des, il a fait des petits, comme on dit, et le troisième sultan Seljoukide, dont le domaine recouvrait maintenant toute l'Asie mineure, était venu en 1087 commettre un geste symbolique très menaçant qui consistait à tremper son sabre dans l'eau de la Méditerranée. On y voyait une menace redoutable pour l'Occident. L'Empire byzantin n'existait plus depuis cette bataille dont je viens de vous parler, cette défaite. L'Europe était directement menacée. Les nations occidentales devaient s'unir pour tenter d'intervenir, pour tenter de résister. Selon un mot que je prends, que j'emprunte à un vieux chroniqueur qui est Guillaume de Tyr, l'éviction définitive des Grecs, comme on disait, les gens de Constantinople, eh bien, est la justification historique de l'entrée en scène de ceux que l'on appellera les Francs. Urbain II lui-même, le pape, l'a reconnu, l'a dit. Il a été déterminé par la nécessité d'empêcher la chute du dernier point dont nous disposions, c'est-à-dire Constantinople. La prise de Constantinople, vous savez, quand on parle la prise de Constantinople sur les Turcs, dont on a fait un événement si important qu'on voit la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes, c'est le début de l'époque dans laquelle nous sommes encore. Cette prise de Constantinople a eu lieu, comme tout le monde le sait, plus tard, oui. 2 siècles et demi plus tard, grâce à l'intervention de la première croisade, sans quoi cette prise de Constantinople ce qui ne signifie pas que les temps modernes auraient commencé deux siècles plus tôt, mais ce qui signifie que cette catastrophe assez marquante pour qu'on l'ait prise comme point de repère, cette catastrophe marquante, donc cette terrible catastrophe, se serait produite, terrible catastrophe, aux yeux de l'Occident, de tout l'Occident, pas seulement parce qu'on est chrétien. Cette terrible catastrophe se serait produite 2 siècles et demi avant la date que nous connaissons. Alors, c'est donc une première raison pour laquelle la France est directement intéressée à ce sujet. La seconde, c'est que ce pape, ce français Urbain II, était un politique qui avait des vues extrêmement précises et en même temps très larges. Et c'est au cœur de la France, à Clermont-Ferrand, qu'il a réuni le concile, à la 10e journée duquel il a demandé qu'on fasse la croisade, il a prêché la croisade. Ce concile s'est donc réuni à Clermont-Ferrand, et c'est là où toute l'Europe, toute la chrétienté, c'est-à-dire toute l'Europe, a été appelée à prendre les armes. Notre éminent compatriote, donc ce pape, se conduisait là en héritier des empereurs romains. La plus haute autorité européenne, c'est-à-dire lui-même, veiller à la sauvegarde de l'Europe contre la menace des successeurs d'Attila. Voilà comment il faut voir la chose. Urbain II lançait ce qu'on pourrait, en somme, célébrer déjà en soi. C'est le premier ordre de mobilisation générale à l'échelle européenne. Le pape, bien sûr, ne pouvait pas prendre la tête de l'armée. Il ne peut pas quitter Rome et il avait tout de même, la chrétienté avait besoin d'être dirigée en dehors de cette expédition. Il ne pouvait pas donc prendre la tête lui-même, et il le désigna comme chef de la croisade un autre Français, ça fait une deuxième raison. C'était l'évêque du Puy, Adhémar de Monteil. Bien qu'évêque, aujourd'hui ça nous surprend bien sûr, mais enfin il faut se mettre dans...
Surtout aujourd'hui, ça nous surprend.
Surtout aujourd'hui. Non, mais enfin, même il y a quelque temps déjà, les évêques n'étaient pas spécialement des militaires. Mais enfin, il faut se mettre dans le contexte.
Ah, il y a eu encore le cardinal de Richelieu, il n'y a pas longtemps.
C'était un choix très judicieux. Car Adhémar de Monteil, ce prélat, avait fait un pèlerinage en Terre Sainte, il connaissait les lieux, il connaissait en somme ce que nous appelons la question d'Orient. Et d'autre part, c'était un homme plein de sagesse et d'expérience, ce qui lui permettrait de maintenir la cohésion entre les tumultueux féodaux que l'on allait réunir et dont l'esprit de discipline n'était pas la vertu dominante. Urbain rassembla d'abord les barons du Midi. Ça commença par là, le comte de Toulouse, pour commencer. Et puis, sont ajoutés à cela les Normands des deux Siciles. Vous savez, il y a le Montréal de Sicile qui est le souvenir des Normands de Sicile. Mais aussi, après cela, il a été entendu dans le nord de la France. Se croisèrent également le comte de Vermandois, qui était le frère du roi de France Philippe Ier, le comte de Normandie, fils de Guillaume le Conquérant, et le comte de Flandre, le duc de Basse-Lorraine, qui s'appelait Godefroy de Bouillon. Alors nous considérons qu'il est belge aujourd'hui parce que Bouillon est en Belgique.
Alors justement, si vous permettez, Monsieur Malem, de vous interrompre une petite minute, parce qu'il y a quand même des messages d'auditeurs. Il y en a justement qui concerne Godefroy de Bouillon. Alors est-ce que Marie veut nous donner lecture de ce message
d'auditeur?
Peut-être que je lui répondrai, j'allais peut-être vous répondre d'avance, mais allez-y.
Alors c'est un auditeur qui dit vous auriez intérêt à intégrer les Belges à vos manifestations ainsi que la ville de Boulogne-sur-Mer puisque le frère de Godefroy de Bouillon était seigneur.
J'allais le dire, vous m'avez coupé la parole. Pardon. Mais je crois que j'avais eu le temps de dire que nous considérons qu'aujourd'hui Bouillon est belge, bien entendu. Enfin, la Belgique n'existait pas. Et la région dont il était donc le duc s'appelait la Basse-Lorraine. Et il était, c'était en français. Quand on dit, quand on parle des Wallons, un évêque se passe, on leur dit que c'était un français. Et son frère, effectivement, j'allais vous parler de son frère, qui s'appelait Baudouin de Boulogne, et qui a été, comme vous allez voir, je vous parlais tout à l'heure de son rôle, à un moment de la prise de Jérusalem. Donc, pour tous ces motifs, il appartient à la France, mais je souhaite vivement que la Belgique s'associe aux suggestions que je fais. Voilà donc comment s'est constituée cette grande armée européenne. Et comme dénomination commune, les croisés adoptèrent le nom de Francs, ce qui donnait, à vrai dire, à ce mot, le sens qu'il avait eu au temps de l'unité carolingienne, quand la Gaule, la Germanie et l'Italie même ne formaient qu'un seul empire. Alors, voilà les deux raisons pour lesquelles la France a le droit et le devoir de prendre la tête du mouvement que je souhaite voir se dérouler en 1999. Et comme vous le disiez, cher monsieur, tout à l'heure, avec raison, dans le programme des célébrations nationales que j'ai reçu l'autre jour, on me l'a donné à l'Académie, je me suis précipité dessus. Pour 98, naturellement, il n'y a pas de ça, c'est normal. Mais il y a les prévisions de 99, un simple avant-propos, mais il n'y a pas la célébration. Et pourtant, comme je vous le dirai tout à l'heure, j'ai saisi les temps, la personne du président de la République, il y a déjà 6 mois. Bon, alors nous n'allons pas raconter toute la croisade, il y a des livres là-dessus, c'est un récit très intéressant, mais qui prendrait plusieurs heures. Mais je veux vous parler de celui que nous avons à célébrer. Alors, il faut dire qu'il y a eu des préalables à ça. Déjà en 1097, nous aurions pu en parler déjà l'année dernière, il y avait une première victoire, qui bien oubliée aussi, comme la défaite de tout à l'heure, qui s'appelle la victoire de Dorylé. Eh bien, elle a annoncé au monde qu'une force nouvelle s'était levée, la force franque, qui allait désormais prévaloir. On notera surtout que si cruels qu'aient été ces combats, comme ceux de toutes les guerres d'ailleurs, il ne résulta pas moins une découverte, une estime réciproque entre ceux qu'on nomme les Francs et ceux que nous appelons les Turcs. Un vieux chroniqueur a écrit ceci. Les Turcs reconnaissent que nul, à part les Francs et eux-mêmes, n'a le droit de se dire chevalier. Parce qu'ils avaient combattu les uns contre les autres, je pense, de façon loyale, très brutale, très dure, mais loyale. Et plusieurs de détails que nous évoquerons tout à l'heure le montrent aussi. Ils ont de l'estime les uns pour les autres. Certes, l'assaut de Jérusalem, qui s'est donc déroulé le vendredi 15 juillet 1099, et c'est pour ça que je voudrais que le jour central des manifestations, je souhaite, ait lieu c'est pas un vendredi, c'est un mercredi, mais enfin, le 15 juillet 1999, l'année prochaine, cet assaut fut une rude épreuve militaire. Godefroy de Bouillon fut le premier, avec son jeune frère, Eustache de Boulogne, dont on nous parlait tout à l'heure, à sauter de la tour mobile sur laquelle qu'il avait fait construire, sur laquelle il avait fait approcher, comme vous savez, l'attaque des châteaux forts. Et cette tour le mettait à la même hauteur que les remparts de Jérusalem. Et alors, Godefroy de Bouillon était le premier à sauter avec son frère. Et d'autre part, son compagnon Tancrède s'empara, lui, de la mosquée d'Omar, où les musulmans réfugiés imploraient l'amant, vous savez, l'entente, le pardon, l'accord. Vainqueur chevaleresque, Tancrède prit ses malheureux sous sa protection. De même, Raymond Saint-Gilles, un autre Saint-Gilles dans le Gard, à qui l'émir avait livré la tour de David, sous la promesse de pouvoir se retirer, lui donna à celui-ci une escorte. Mais les circonstances d'un assaut sont toujours sanglantes. Les vainqueurs eux-mêmes en furent frappés d'horreur, écrit l'archevêque de Tyr, dont je vous parlais tout à l'heure. Cependant, la journée s'acheva dans la douceur et l'émotion. Les rudes soldats, transformés en pèlerins, suivirent dévotieusement la Via Dolorosa qu'avait parcouru le Christ et qui conduit, comme nous le savent tous les pèlerins d'aujourd'hui, au Saint-Sépulcre.
Alors, je ne voudrais pas vous interrompre dans cet exposé qui est très intéressant et qui permet surtout à nos éditeurs de bien cadrer les raisons de cet espoir que vous formez d'organiser quelque chose pour 1999. Alors, je voudrais que vous passiez plus directement au projet. Je pense que nos auditeurs ont compris.
Absolument.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce que vous avez commencé à faire?
Je résume donc la suite. C'est-à-dire que Godefroy de Bouillon fut chargé d'être le chef de ce nouveau royaume. Il refusa d'ailleurs, car c'est un homme très pieux et très modeste, il refusa le titre de roi. Et il refusa le titre de roi en disant « je vais apporter une couronne d'or » là où le Christ a eu une couronne d'épines. Mais enfin, c'est quand même devenu un royaume. Il a eu un successeur, dont son frère, dont on vous parlait tout à l'heure, et qui, lui, a pris le titre de roi comme tous les autres, etc. Bon. Alors, quand on pense aux croisades, plutôt que de n'évoquer que les scènes tragiques qui, au niveau des peuples, accompagnent nécessairement les contestations de voisinage, c'est la concordance du sentiment chevaleresque, très vif aussi chez les cheikhs arabes, comme je l'ai rappelé, qu'il faut mettre en lumière. Alors voilà pourquoi la France a le droit et par conséquent le devoir de célébrer en 1999 le 9e centenaire de ce grand moment de l'histoire du monde que fut la délivrance des lieux saints. Je veux vous parler des objections qui viennent aussitôt à l'esprit, je suppose que dans les petits papiers qu'on va recevoir, il y en aura. On me demandera probablement pourquoi la célébration ne devrait-elle pas se faire à l'échelle de l'Occident. J'ai répondu oui, bien sûr, mais à la France de prendre comme autrefois
l'initiative,
et je souhaite que ce que je vous dirai se fasse aussi dans d'autres pays. Je parlais de la Belgique tout à l'heure puisque quelqu'un en avait parlé, mais c'est vrai aussi en Allemagne, c'est vrai en Angleterre, où il y a eu plus tard, mais il y a eu Richard Cœur de Lion, etc. Et en Italie, bien entendu, en Espagne, enfin tous les endroits en Espagne, ils ont fait leur reconquiste, leur propre croisade sur place, mais c'est aussi important, etc. Donc je souhaite vivement que tous ces pays-là, et quand je l'ai fait savoir mes projets au Saint-Père, au Pape, j'ai suggéré que par les nonces, ils le fassent suggérer à tous les pays où les nonces estiment qu'il y a eu des croisés autrefois. Donc voilà la réponse. D'autre part, on pourrait nous dire, nous qui venons 9 siècles après, nous savons que ce beau royaume latin de Jérusalem n'existe plus depuis longtemps. Est-il raisonnable de commémorer un événement qui n'a été qu'une situation provisoire? Mais tout est provisoire sur cette terre. Combien de temps a duré le royaume de Jérusalem? Oh, très peu, il a duré 2 siècles. Ben, 2 siècles, c'est la durée de la République en France. Nous l'avons quand même célébré il y a quelques années. Elle a guère plus de 2 siècles. Elle a dit, ouais, bah, nous fêtons quand
et
même.
De manière discontinue, quand même, si je peux me permettre de...
Et de manière discontinue, alors que là, les deux siècles ont été continus.
Le royaume de Jérusalem a duré deux siècles pleins.
Vous avez raison, il y a eu quelque chose au milieu à différentes reprises. Mais enfin, ne faisons pas de procès à la République, c'est simplement que sur le fait que c'est duré que deux siècles, eh bien, le que est de trop, ça a duré deux siècles, et n'aurait duré qu'un jour, c'est un grand événement. D'autre part, nous fêtons le 11 novembre 1918, tout en sachant que cette victoire fut suivie de près par l'effondrement de juin 40, ça ne nous empêche pas de fêter ces deux événements. Alors donc, nous, voilà deux raisons pour lesquelles deux objections auxquelles on peut répondre. La troisième, qui nous viendra certainement, c'est ceci. Est-ce bien opportun d'évoquer une guerre que nous eûmes avec les musulmans dans le cadre des difficultés que nous pouvons avoir aujourd'hui avec les musulmans? Eh bien, ne pas parler d'une chose n'empêche pas qu'elle ait existé. Et ni qu'elle ait produit des effets. Et ces effets ont été, en l'espèce, très positifs. Ne pas oser évoquer un différent passé, c'est avouer que le conflit demeure. Regardez entre la France et l'Allemagne. Cette haine latente qu'il y avait entre nos deux pays, elle n'a pas pris fin quand nous avons cessé de nous tirer dessus. Mais quelques années plus tard, le jour où le chancelier d'Allemagne et le plus illustre des Français, qui était le président de la République à ce moment-là, ont franchement parlé ensemble et se sont toute clarté serré la main. Nos difficultés actuelles, évidemment, sont fondamentalement différentes des conflits jadis. Elles ne seront pas aggravées par un rappel honnête de ces rencontres, dont bien au contraire, ce sera l'occasion de souligner le côté bénéfique. On a vu tout à l'heure que dès le lendemain des combats, ces contacts provoquèrent estime et partage du sens de l'honneur. On pourrait aussi dresser une liste très positive sur le plan matériel, notamment en considération économique et culturelle, de la rencontre de l'Occident et de l'Orient méditerranéen. Bien que ces rencontres aient été brutales, elles ont produit beaucoup de richesses et de richesses intellectuelles et matérielles.
J'interromps une seconde pour rappeler quand même que nous sommes sur Radio Courtoisie. Bien donc les auditeurs peuvent appeler au 01 46 51 00 85 par télécopie au 01 46 51 21 82 et aussi également nous envoyer des messages par le Minitel 36 15 Libre Journal. Je crois quand même il y a quelques petits messages qui sont arrivés d'auditeurs.
Voyons.
Alors, il y a tout d'abord un auditeur qui nous dit qu'il a eu l'occasion de visiter dans les années 60 le krach des chevaliers à la frontière libano-syrienne et il demande si vous pourriez en dire quelques mots.
Très rapidement, parce que le temps va nous manquer.
Oui, bien sûr, c'était une belle citadelle qui est dans le programme des pèlerinages aujourd'hui quand on va en Terre Sainte. Et c'est en effet un des monuments qui subsiste de cette époque-là.
Et enfin, l'auditeur nous demande, que pensez-vous de l'attitude des barons latins croisés et de Venise à l'égard de Constantinople en 1204 au cours de la quatrième croisade?
On va pas parler de 1204 parce que c'est pas l'objet de ce soir.
J'ai sauté l'ensemble des croisades et même le récit de la première croisade. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses à côté qui n'étaient pas souhaitables.
Voilà. Mais l'idée c'est pas de refaire l'histoire des croisades etc.
Effectivement, il y a eu à Constantinople des abus, etc. Comme d'ailleurs, il y a eu des massacres.
Cher monsieur Malène, je vous ai dit,
l'évêque de Tyr a écrit que ça était épouvantable. Vous voyez, la prise de Jérusalem. Alors, un participant aux événements.
Alors, passons aux choses.
Mes projets. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai écrit au président de la République, qui est donc monsieur Chirac, au mois d'octobre dernier. En lui envoyant une notice beaucoup plus développée sur ce projet, ce que je viens de dire, à peu près ça, mais enfin beaucoup plus développé, et en faisant deux suggestions. Premièrement, je souhaite qu'il y ait un colloque soit organisé, qui grouperait des historiens de toutes disciplines, des pays chrétiens, enfin héritiers si on veut, des croisés, et aussi ceux des pays qui se considèrent plus ou moins héritiers de ceux qui furent les adversaires des croisés. C'est beaucoup plus, c'est peut-être prudent, je dis pas forcément de tel ou tel, c'est plus compliqué. Mais enfin, les deux parties se pourraient se réunir et entre spécialistes de l'histoire, histoire militaire, histoire économique, histoire culturelle, il y a beaucoup de choses à dire. Et j'ai envoyé un double de ce message au chancelier de l'Institut de France à cause de ça, parce que ça, à mon avis, c'est l'Institut qui devrait l'organiser. Le chancelier, qui est Marcel Landowski, mon éminent confrère, m'a dit, cher ami Malène, vous avez raison, c'est très intéressant, je vais remettre votre mémoire à notre confrère, le perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de qui relève un tel projet. Alors, nous en sommes là pour ce qui est de cette première idée. La seconde était de faire savoir l'opinion, tout simplement, par l'émission d'un timbre. Alors, j'ai personnellement une certaine expérience de ça, puisqu'à deux reprises je suis intervenu pour donner l'idée de timbre à la France. Je sais comment ça se passe. Donc il faut quand on envoie un projet, il faut se dire que la Poste reçoit environ 1000 suggestions pour un timbre. Tous les gens qui disent, moi je connais un Tibet patent, moi je connais, j'ai une ville magnifique, il y a une vieille cathédrale superbe dans mon coin, nous avons organisé je ne sais quoi dans notre région, enfin il y en a mis. Si on veut être choisi, il faut avoir des arguments. Alors j'ai donc envoyé, j'ai envoyé le dossier en question, le double, au secrétaire d'État chargé de la Poste, qui m'a répondu qu'il en prenait note et qu'il le mettait dans la liste des programmes, etc. Et deuxième argument, il faut être nombreux à le demander, et c'est pour cela que je fais faire l'appel dont je vous parlais depuis le début. Alors, il faut aujourd'hui écrire, alors je vais demander à nos auditeurs qui sont intéressés par ce que je viens de dire, de prendre leur crayon et le papier, et dans une seconde je vais leur dire à qui. Et je vous donnerai l'adresse exacte. Vous devez écrire au secrétaire d'État à la Poste et lui dire, je sais qu'il est question d'un timbre pour en 1980, dans le programme de 1999, consacré au rappel de la délivrance des lieux saints par la première croisade qui a été essentiellement une croisade française. Je trouve cette idée bonne et je vous demande de la faire aboutir. Voilà ce qu'il faut que vous écriviez. J'ajoute, pas de fausse modestie, ni même de modestie authentique. Si vous avez des titres quelconques, faites-les valoir. Ça, votre lettre n'aura plus de poids.
Ça aide toujours.
Si parmi ceux qui veulent répondre, il y a des professeurs, par exemple, je suppose, des généraux, des ambassadeurs, ou toute autre personnalité dont le nom, dont le titre donne du poids à ce qu'il dit, ne mettez pas de l'écrire. Alors, ça n'empêche pas tous les autres d'écrire aussi, bien entendu, ceux qui sont pas ambassadeurs. Alors, je vais vous dire à qui.
À qui il faut s'adresser. Voilà.
Vous écrivez cette lettre à Monsieur Pierret. P-I-E-2-R-E-T, Monsieur Pierret, qui est, je vous l'apprends peut-être, le secrétaire d'État à l'industrie, qui est chargé de la Poste. Voilà, son titre c'est secrétaire d'État à l'industrie, chargé de la Poste, et il siège comme le ministre des Finances dont il est le secrétaire d'État, c'est-à-dire à Bercy, à savoir 139 rue de Bercy, Paris 12e, 75-012. Monsieur Pierret, secrétaire d'État à l'industrie chargé de la Poste, 139 rue de Bercy, 75-012, Paris. Sans omettre de faire état de vos titres et qualités, y compris celle de « je suis un jeune homme », mais je viens de parler des gens éminents, mais un jeune homme, je ne suis qu'un collégien, mais j'estime que moi, etc., ben, ça fera autant de poids que celle d'un ambassadeur.
Donc c'est possible que si le ministre ou le secrétaire d'État Pierret reçoit quelques milliers de lettres, ça va
oui,
peut-être...
Oui, mais même quelques centaines, je pense ça suffirait.
C'est toujours
parce que j'ai déjà fait ça une fois ou deux, notamment il y a quelques années, pour qu'on célébrât par ce moyen le 450e anniversaire de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, c'est-à-dire le texte de François Ier, qui décide qu'en France, on parle le français. Comme je suis par ailleurs très mêlé aux histoires de défense de la langue française, je me suis préoccupé de ça, j'ai fait cette suggestion. Et alors, le ministre de la Poste de l'époque m'a fait savoir qu'il y avait un millier, c'est là où j'ai appris ce chiffre, il y a un millier de lettres, et qu'il allait le soumettre, mais qu'il y a un comité de consultation philatélique, qui est composé en fait de professionnels de la philatélie. Alors ces gens-là choisissent en pensant à quelque chose de différent de l'esprit que nous avons quand je dis ce que je venais d'entendre. C'est-à-dire qu'ils pensent, est-ce que ce timbre sera joli, est-ce qu'il plaira, est-ce qu'il aura du succès, est-ce qu'il sera vendu, est-ce qu'il prendra de la valeur philatélique. Et ce qui fait que ils peuvent très bien, pas forcément, mais ils peuvent très bien ne pas trouver que celui-là leur complet, ils en préfèrent un autre. Mais le ministre, à tout même, c'est lui qui décide.
Oui, tout à fait. On l'a vu pour Clovis, pour le 15e centenaire du bateau de Clovis.
C'est la même chose.
C'est pas eu d'intervention du président suite à beaucoup de pression. Il n'y aura jamais eu de table sur Clovis.
Voilà, c'est ça. Alors, le ministre le fera. Je ne pense pas qu'il le fera simplement parce que je lui ai demandé. À ses yeux, je n'aurai aucun poids. Mais s'il y en a 200-300 personnes, pourquoi pas davantage, qui lui écrivent en lui disant ce que vous êtes tout à l'heure, j'ai entendu parler de ce projet, je l'approuve, c'est une très bonne chose pour la France et même pour notre entente avec les musulmans. C'est une chose que la France a le devoir de faire, faites-le, monsieur le ministre. Eh bien, s'il y a 200-300 lettres comme ça qui arrivent au 139 rue de Bercy, je vérifie, 139 Paris 12e,
ça peut aider.
Eh bien, ça jouera, nous aurons notre timbre. Voilà ce que je voulais dire aux auditeurs de Radio Courtoisie, parmi lesquels je vais reprendre ma place habituelle.
Eh bien, vous l'avez dit avec beaucoup de conviction, en tous les cas, je vous remercie beaucoup. J'espère effectivement que quelque chose pourrait être fait, ne serait-ce qu'au niveau philatélique, encore que... On a eu ce désagrément il y a quelques années, puisque il y avait la célébration, je crois que c'était le 250e anniversaire de la bataille de Fontenoy, qui est une bataille quand même très très importante.
Oui.
Et il y avait eu donc une idée d'un timbre émis de façon commune par les postes belges, irlandaises, puisqu'il y avait un bataillon irlandais qui s'est battu à Fontenoy, et françaises. Alors les Irlandais et les Belges ont sorti un très beau timbre, d'ailleurs sur Fontenoy, mais l'administration française a jugé que ce n'était pas très utile de commémorer cette bataille.
Ah, c'est parce que la commission en question a trouvé qu'il n'y aurait pas...
Voilà.
Bon, moi ça m'est arrivé pour le timbre de Villers-Cotterêts, mais alors là, c'est qu'on le faisait. Bon, la Poste m'a soumis les projets qu'elle avait fait faire par ses artistes. J'ai trouvé qu'ils n'étaient pas significatifs et j'ai griffonné un modèle. La Poste, oh, on va le faire. J'ai dit, allez-y. Je n'ai pas pensé. Il m'a dit, vous auriez peut-être droit à des droits d'auteur. J'ai fait simplement un croquis qui a été bien dessiné par un graveur après. Mais j'ai même trouvé que j'avais répondu un peu vite quand j'ai su qu'on l'avait tiré à 14 millions d'exemplaires.
Bravo. Merci Pierre-Louis Malène. Si d'aventure les auditeurs souhaitaient vous écrire pour vous poser plus de questions ou savoir comment ils peuvent s'associer à une commémoration plus large que celle, bien sûr, de l'émission philatélique à laquelle vous rêvez, alors je leur demanderais simplement d'écrire à Radio Courtoisie, ce qui serait quand même le plus simple. Donc c'est Pierre-Louis Malène. Malène s'écrit M-A-2-L-E-N, au bon soin de Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 06, voilà. Paris. Les lettres qui arriveront,
oui, j'ai une autre adresse postale aussi, s'ils oublient. Mais ils n'oublieront pas Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, ils
n'oublieront pas. Enfin, il y a l'Institut de France.
Ou l'Institut de France.
Pierre-Louis Malène, Institut de France, donc 23 Quai Conti, ça se trouve dans tous les bouquins. La lettre me parviendra.
Je vous remercie beaucoup, vous avez été très brillant, vous avez expliqué beaucoup de choses, j'espère de tout cœur que cette affaire va un petit peu monter en puissance, j'espère que cette émission de ce soir y contribuera. En tout cas vous êtes ici chez vous, ici d'aventure vous souhaitiez relancer un petit message pour faire, disons, une espèce de relance de cette opération, vous seriez bien sûr le bienvenu.
Vous êtes très aimable, je vous remercie beaucoup. Rien de tout cela ne me surprend, parce que je vous dis, je suis un fidèle de Radio Courtoisie.
Alors,
enfin, d'habitude, de l'autre côté.
J'espère qu'on vous écoutera quand même au lieu, bien que vous soyez un ami de Radio Courtoisie.
Ah ben, je pense que je suis toujours à votre disposition, un certain nombre de choses à vous raconter aussi, vous savez.
Avec plaisir. Merci beaucoup.
Eh bien, je vous laisse et je prendrai la coude cette nuit. Pour ce que je l'entends de rentrer chez moi, vous aurez parlé, messieurs.
Nous aurons parlé.
Et je vous écouterai cette nuit.
Merci, à très très bientôt.
Merci. Au revoir.
Et maintenant, nous passons un petit peu de musique, enfin une musique dont nos auditeurs ont l'habitude, mais celle-ci est un tout petit peu différente. Voilà, c'est une autre interprétation de l'indicatif que maintenant les auditeurs doivent connaître. Alors ça, c'est juste content, j'ai retrouvé dans mes cartons ce disque qu'on me demande presque toutes les semaines. Vraiment, c'est rare qu'une semaine passe sans qu'on me le demande pas, soit par lettre, soit par message. Qu'est-ce que c'est cette terre? Comment est-ce qu'on peut se le procurer, etc. Donc, alors, c'est extrait des suites. Celui-ci est extrait des suites d'opéra. Donc, c'est des suites écrites à la suite de la composition de l'opéra d'Ardanus de Rameau. Ces suites ont été composées en 1739, l'opéra ayant été composé en 1735. Alors vous le trouverez, ce disque, interprété par le Collegium Aureum. C'est un disque Deutsch Harmonia Mundi, classique, Deutsch Harmonia Mundi. Alors le numéro est très très compliqué, mais si vous avez envie de le noter, vous le notez. Je ne redirai pas une deuxième fois, il va falloir l'écouter en diffusion. 05 47 27 72 692. 05 47 27 72 692, Jean-Philippe Rameau, suite pour opéra Les Indes Galantes, et l'air que vous entendez s'appelle indifféremment soit Marche pour les Nations ou Marche d'Ardanus. On peut l'entendre dans différents enregistrements. Et celui-ci est un petit peu plus lent et plus majestueux que celui que nous avons en indicatif, mais je trouve celui de l'indicatif plus vif, donc correspond un peu mieux à mon tempérament. Voilà. Donc merci à tous les auditeurs qui ont envoyé des tas de messages, mais bon, on n'a pas eu le temps d'aller beaucoup plus loin, malheureusement, parce que le temps nous est compté, et puis c'était des questions un petit peu historiques, et l'objet n'était pas de raconter les croisades, mais d'inciter les auditeurs à s'associer de manière directe, en écrivant à Monsieur Pires, qui est un état à la poste, ou en écrivant à Monsieur Malène, à Radio Courtoisie, de s'associer à cette prévision d'une commémoration, c'est tout assez intéressant, surtout tout proche de l'an 2000, n'est-ce pas?
Et voilà.
Alors maintenant, je me tourne vers nos trois mousquetaires, les mousquetaires, donc Jean-Louis Caffarel, directeur du mensuel La Durbelière, Franck Lechouan, qui est lui qui anime le supplément Cœur de Chouan de La Durbelière, et puis Jérôme Grolier, qui est le dernier venu, hein,
oui,
la pièce rapportée en quelque sorte, qui lui a un autre supplément, parlez le plus près possible du micro, mesdames, un autre supplément qui s'appelle Chouan Cavalerie, qui s'adresse au cavalier. Alors d'abord, peut-être quelques précisions à Jean-Louis Caffarel, qui est un habitué de ce micro, plusieurs fois qu'il y vient, on peut dire qu'il y campe.
Bah, c'est la deuxième fois.
Deuxième fois seulement?
Oui, la deuxième fois. Et donc, je vous remercie d'offrir la parole au petit pousset de la légitimité.
Oui, c'est très bien. Alors, donc, je l'ai l'air de la Durbelière, mais non, le nom ne dit pas beaucoup de choses, mais c'est quand même un journal royaliste. Alors, c'est très particulier, parce que c'est un journal qui est gratuit.
Voilà, c'est un journal.
Pas gratuit pour tout le monde, il est gratuit pour ceux à qui vous le donnez, mais il n'est peut-être pas gratuit pour vous, quand même.
Non, c'est-à-dire que bon, bah,
vous avez les fonds secrets de l'Élysée ou de Matignon?
Eh non, on n'a même pas essayé de ce côté-là, mais.
N'essayez pas.
Avec notre énergie, donc. Au départ, j'aurais jamais pu imaginer ce qu'aurait pu donner ce journal.
Qui en est à son numéro.
Qui en est à son numéro, donc 38.
38, c'est pas mal du tout.
Oui. Et donc au départ, c'est resté plus une lettre qu'un journal. Et c'est le côté important de la chose, c'est qu'au tout départ, je l'avais envoyé une quarantaine d'amis, de membres de la famille, pour essayer de leur faire partager la sérénité que j'éprouvais au milieu de ce désert républicain, où l'ambiance est triste, enfin, beaucoup de gens ont perdu l'espoir, et moi justement, mon but, c'était de leur faire retrouver l'espoir, de rétablir l'espoir, de retrouver la sérénité dans ce désert de fer, d'avoir rétabli la monarchie, déjà rétablie, comme j'avais dit à la première émission. Pour moi, la monarchie, elle est déjà rétablie dans le cœur de chaque royaliste. Et donc cette sérénité, j'ai voulu la faire partager à mon entourage, et ça a démarré avec une quarantaine de personnes, des cousins, des oncles, des tantes, des amis proches, lointains. Et puis petit à petit, eh bien, le journal s'est développé, puisque maintenant on a dépassé les 300 envois. Et là, vraiment, on a même maintenant.
Vous financez ça comment alors?
Eh bien, ma les principaux financiers, ma sœur et moi-même, Marie-Ange, donc qui finance La Durbelière, et aussi le journal est gratuit. Enfin, cette lettre est gratuite puisque c'est une lettre, mais beaucoup d'amis, beaucoup de lecteurs nous envoient quelques dons. Et que, bien sûr, nous ne refusons pas.
Des timbres, du pâté de campagne, oui. Enfin, un peu de vin rouge, de quoi quand même.
Voilà. Est-ce que cela, oui.
Et non, donc, je trouve, je vous le dis sincèrement, parce que on se connaît depuis longtemps, les auditeurs aussi ont déjà entendu parler de vous. Moi, je trouve que votre initiative est extrêmement sympathique, elle est surtout très courageuse. Alors sympathique, il y a beaucoup de choses qui sont sympathiques dans le monde d'aujourd'hui, les oiseaux, les fleurs, tout ça c'est très sympathique. Mais le courage est peut-être la vertu qui manque le plus à nos contemporains. Et vous, vous avez 100 missions de personnes, parce que vous demandez une autorisation à personne pour faire votre machin.
Absolument.
Vous avez dit, c'est pas, il faut bouger, il faut faire quelque chose. Si on commence pas soi-même à faire quelque chose, rien ne bougera jamais.
Voilà, exactement. Voilà.
Alors vous êtes pas du tout du genre lamentatif, quel est le substantif de se lamenter, un lamenteur?
J'éviterai le problème en disant vous n'êtes pas du genre à vous lamenter.
Voilà, vous n'êtes pas du genre à vous lamenter. Je pensais qu'il y avait un substantif. Moi aussi, des fois, les auditeurs veulent nous téléphoner pour dire quel est le substantif de lamenter. Je serais très très heureux. J'aurais au moins appris quelque chose ce soir. On apprend toujours quelque chose en Radio Courtoisie, toujours. Et vous êtes parti. Vous avez fait
voilà,
un bulletin qui a monté en puissance. Alors vous participez à des tas de réunions. Vous organisez une fois par an un banquet. Bientôt, ça les banquets, j'aime beaucoup.
Le premier qui va
et
être organisé.
Vous faites les marchés aussi.
Exactement. Enfin, les marchés plus spécialement un point rencontre légitimiste que nous faisons tous les ans.
En plus, vous faites partie de la race des légitimistes, alors.
Ah oui, bah c'est la seule race reconnue de royalistes. Il y a que celle-là qui existe.
Toutes les autres sont pas au.
Bah les autres, ils sont. La grande différence, c'est que bon, bah il y a le comte de Paris, mais il est prétendant. Tout le monde peut prétendre au trône de France.
Moi,
je peux prétendre au trône de France.
Moi aussi, moi d'abord, s'il vous plaît.
Voilà. Mais il y a un roi de droit qui est le prince Louis, qui lui ne prétend à rien. Ça, il faut bien insister là-dessus parce que certains, même de notre presse amie entre guillemets, disent mais il y a un prétendant. Le premier prétendant, c'est le prince Louis. Non, c'est faux. Il n'est pas prétendant, il est roi de droit.
Il ne prétend pas, il est simplement l'aîné. Sa qualité d'aîné en fait le roi désigné. Enfin, c'était comme ça sous l'ancienne France.
Exactement, voilà.
Enfin, les portes Thomas Boli, puisqu'il y a encore des gens qui y croient et qui croient à ses vertus. Alors, vous êtes lancé, donc, je vous dis encore une fois, moi, je vous reconnais beaucoup de courage. Et surtout, alors, courage, vertu rare aujourd'hui, et persévérance. C'est-à-dire que c'est vrai, quand on reçoit les premiers bulletins comme ça, on se dit bon, ça c'est un truc, ça va tenir encore deux mois, trois mois, puis ça va aller au numéro 3, numéro 4, puis après bon, après vont s'effondrer. Et puis non, ça fait des années que ça dure, quoi.
Ça va faire 4 ans au mois d'avril.
Voilà.
4 ans au mois d'avril, qui va nous permettre de fêter cela, j'espère, avec votre présence.
Ah ben, si vous m'invitez, moi, je ne refuse jamais un bon coup en bonne compagnie. Ça, jamais, jamais. Alors là, si vous me prenez le sentiment...
Je peux peut-être en profiter pour annoncer déjà ce qui figurera dans le numéro de la Durbolière.
Dans le prochain numéro, parce que moi, je l'ai en avant-première.
Il va sortir,
très
voilà.
Très sympathique.
Alors, ce sera donc le samedi 18 avril 1998, bien sûr. C'est le banquet donc des 7 ans. Donc, c'est une soirée qui débutera à 20h. Le restaurateur nous a précisé jusqu'à 1h du matin. Donc, on va faire la fête.
Je sais pas dans quel état on sera 1h du matin, mais voilà. C'est toujours intéressant.
Alors donc, c'est au restaurant Ami, donc, parce qu'on a beaucoup de restaurants Ami, donc, on a en même temps la qualité de la gastronomie et puis, la qualité des idées aussi. Donc, c'est l'Alsacienne, 48 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, métro Mouton du Vernet. Alors, les numéros de bus, 38 et 68.
Bah, c'est parfait.
Donc, le repas, on a essayé de le faire le moins onéreux possible pour que le maximum de personnes puissent venir. Donc le repas sera de 150 francs. Et alors, on démarre peut-être sur une base de 50 personnes, mais donc on a une grande salle à notre disposition pour pouvoir dîner, chanter, enfin tout cela. Mais je conseille donc à tous nos auditeurs qui veulent venir de s'inscrire le plus rapidement possible, parce qu'on ne doit pas dépasser les 110 personnes, je crois.
Grand maximum
110 personnes. Bon, s'il y avait trop de monde, on en fera un deuxième.
Alors, parlez bien dans le micro, parce que vous faites des signes désespérés. Là, il y a un micro qui ne marche pas. Alors, voilà, il faut donc, voilà. Alors, on va changer, on va faire une petite changée de place. C'est le jaune qui ne marche pas. C'est le jaune qui ne marche pas. Donc, très bien. Donc, Franck Lechouan se met devant moi et Jean-Louis Caparel, vous restez à mes côtés avec le micro bleu, parce qu'ici, nous avons des couleurs de micro. Alors, le bleu, le jaune, le noir, le marron et le vert.
Quelle honneur.
Voilà. Donc voilà, on va donner quand même l'adresse de la Durbolière, c'est quand même la moindre des choses. Donc la Durbolière, au bon soin de Jean-Louis Caffarel, on
c'est
peut
cela,
donner votre nom, hein.
Mm-hmm.
C'est avec deux F. Hein.
Deux F,
et
oui.
Et un seul R, donc Caffarel.
Caffarel.
Boîte postale 26,
ou
2x13 si vous préférez, ça arrivera pareil. 77-230, Dammartin-en-Goële.
Alors Dammartin-en-Goële, je tiens à préciser. Oui. Première étape de la route des Sacres de Paris à Reims, première étape des Rois de France.
Oui, tout à fait. Mais ça, j'avais lu dans votre journal, justement.
C'est ça,
j'avais découvert toutes ces choses-là.
Oui.
Donc, vous trouverez beaucoup, beaucoup d'informations dans ce petit journal. Alors, il y a évidemment de tout. On peut être...
Numéro de fax aussi. Alors, petite précision, nous avons un numéro de fax, mais j'adresse d'ailleurs ce message à notre ami Yves-Marie Adeline, qui m'avait téléphoné un soir en me demandant de le brancher.
Mais il ne peut pas vous entendre parce qu'il n'y a pas encore là où il est, il n'y a pas encore.
Mais donc c'est un fax qui n'est pas dans mon, à mon domicile, qui est au domicile de notre talentueux dessinateur, c'est le fax d'Ignace. Donc c'est ce numéro-là. Donc 01 44 75 33 06.
Alors 01 44 75 33 06, ou voilà, l'adresse boîte postale 26 77 230 à Martin en Goël, si vous souhaitez recevoir un spécimen et savoir un petit peu ce que c'est que cette revue.
Voilà,
c'est toujours intéressant à découvrir et c'est fort sympathique. Alors vous permettez que j'arrête de vous cuisiner pour passer à vos patrons de suppléments.
Oui, bien sûr. Alors j'ajoute quelque chose avant, c'est de la devise de la Durbelière, donc qui est en premier lieu Dieu premier servi.
Oui.
Parce que nous, royalistes, nous donnons la priorité à la qualité plutôt que la quantité, qui est réservée aux démocrates.
Ah, hélas, on peut avoir aussi la quantité.
Et donc, nous essayons de nous rapprocher le plus possible de la fidélité envers Dieu, Dieu premier servi. Et c'est ce qui nous fait d'ailleurs, qui a lancé un petit débat au sein de notre famille politique sur le drapeau.
Ah.
Mais je tiens à dire que je considère d'ailleurs, et je l'avais dit la dernière mission, que je considère les légitimistes comme une grande famille dans laquelle les débats sont ouverts. Mais étant donné que notre première devise...
Tout blanc, ils sont pas tout ouverts,
tout blanc. Tout vert, oui. Étant donné que la première de notre devise est Dieu premier servi, donc en ce qui concerne justement le drapeau...
Je crois que si on est d'accord sur Dieu et sur le roi, on peut être d'accord sur le reste aussi.
Et donc il faut faire plaisir à Dieu et ne pas cautionner... Voilà. Ce qui pourrait l'offenser.
Donc il y avait un auditeur qui demandait bon les choix.
Les auditeurs auront compris.
Voilà, oui. Alors il y en a qui posent des questions, il y en a qui disent les choix ont donné leur vie pour la Sainte Religion catholique. Vous êtes réjoué de vous, catholique, moderniste, conciliaire, autre, rien les mentions utiles. Alors, alors je dirais que bon, ça chacun est. Je vais pas.
La tradition d'abord. Voilà.
Moi, je trouve que par exemple, on est catholique, quoi. Bon, moderniste, conciliaire, je sais pas ce que c'est.
Moi non plus.
Je veux même
est-ce
pas
que les conciliaires sont catholiques? On peut peut-être se poser la question. Nous sommes catholiques.
Il n'y a pas de catholique, ça suffit. Il n'y a pas besoin.
C'est catholique.
Il y a pas. C'est pas comme les enterrements. Il n'y a pas catholique de première, de seconde, de troisième classe. Voilà. Ça n'existe pas. Il y a catholique et puis ce qui n'est pas catholique. Quoi. Bon, il se trouve que vous êtes catholique.
Voilà, c'est cela. Donc ça m'amène à parler rapidement de nos devises.
Peut-être un peu
plus
catholique que catholique, mais vous êtes quand même catholique.
Dieu premier servi, pour Dieu donc pour le roi et justement catholique et français toujours.
Avec une belle messe en latin aussi.
Ce qui motive notre action.
Mmh. Alors voilà, donc... Alors il existe un auditeur qui dit qu'il existe un roi de droit qui est un descendant de la survivance de Louis XVII et qui n'est pas Louis XX. Mais écoutez, tant que la preuve n'est pas faite que
La preuve est en passe d'être faite, justement. Oui, il y a un très bon livre qui est sorti il y a 2 ans, je crois, et qui, justement, apporte des pièces sur Louis XVII, justement.
Polyric Blanc-Rue, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Donc, je conseille à cet auditeur de lire ce...
Voilà, ce qu'il faut, c'est faire la preuve. Le sang de France ne se présume pas. Nous avons beaucoup de respect pour des gens qui pensent qu'il y a une survivance de Louis XVII. Moi, j'ai vraiment aucune espèce d'hostilité. Ce sont des gens très sincères et il faut respecter leurs convictions. Mais il faut que la conviction soit quand même appuyée sur des faits réels et tangibles et pas simplement sur des expressions, enfin, on va dire des idées de, c'est pas l'homme qui avait l'ours. Parce qu'on peut pas comme ça très très bien suivre le cheminement. Donc, une grande règle de base, c'est que le sang de France ne se présume pas. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, nous attendons qu'on nous administre cette preuve du contraire, l'aîné de tous les Bourbons, l'aîné salique, évidemment, c'est le prince Louis de Bourbon. Bon, voilà. Alors, en d'autres temps, il eût été roi, en tout cas jusqu'aux révolutions qui ont marqué les 2 derniers siècles. Aujourd'hui, il est un simple particulier, si je puis dire, pour la plupart des Français. Enfin, pour nous, il a une qualité un petit peu différente. Voilà. Alors, on me dit de répéter que le repas n'est que de 150 francs. Oui, c'est vrai, c'est pas très cher, d'ailleurs, parce que généralement, les repas à Paris, c'est cher. Oui, enfin, vous aurez plus de monde si vous organisez votre banquet à Paris que si vous l'organisez à Damartin-Gouët.
Ah ça, oui, ça, alors, oui.
Croyez-le. Marie, c'est tout comme question. Oui, je vous vole vos questions au fur et à mesure, parce que je trouve tellement palichonne ce soir que vraiment...
Non, mais tout de même, je ne suis pas au bord de l'agonie, je peux parler.
Alors, nous allons passer maintenant la parole à l'un de vos condisciples, Franck Lechouan, qui... anime donc un petit supplément qui s'appelle Cœur de Chouan, et je voudrais savoir pourquoi vous avez eu l'idée de lancer ce supplément à l'intérieur de la grande entreprise de presse de la Durbelière.
Eh ben tout simplement parce que c'est un service d'entraide offert par la Durbelière et qui
Mon but à moi, c'est la communication. Il faut que les gens essayent de se communiquer et essayent aussi de s'enrichir, entre autres avec des petites anecdotes historiques, des petits plus, comme j'appelle cela, avec des plantes et remèdes, des recettes gourmandes, des mots croisés, une garderie d'enfants faite par des traditionnalistes.
Des petites annonces,
naturellement, très 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 important.
Des offres matrimoniales.
Entre autres, bon d'accord.
Parce que on dit que vous êtes encore jeune homme et que vous cherchez à convoler.
Absolument.
Alors vous êtes à la radio, profitez-en. Enfin, moi je peux dire que vous êtes un beau garçon, grand, sympathique, un visage tout à fait ouvert. Vous portez bon Sacré-Cœur sur votre gilet. Donc vous êtes un homme pieux, un homme d'aujourd'hui, hein, parce que vous avez.
Mais oui, alors vous voyez bien qu'un homme d'aujourd'hui ne peut pas a du mal à trouver, je veux dire, dans sa branche entre guillemets.
Oui.
Et alors donc c'est sûr et certain, je préfère rester célibataire endurci que
non, on peut être célibataire tendre mais pas endurci. Non.
Ah oui, bah là,
enfin, je veux dire, si des fois des jeunes filles étaient dans ces idées-là, ça vous feriez un très joli couple. Enfin avec une jeune fille en tout cas, c'est pas
quelqu'un de 50. J'espérais, hein. Alors voilà, la petite annonce est passée maintenant.
C'est passé, donc radio, vous écrivez
à la fin de l'émission
à Franck Le Chouan, La Durbelière, boîte postale 26 77 230
Dammartin au Goël aussi.
Voilà.
Et puis aussi j'avais voulu faire aussi un grand remerciement pour ce travail de fourmi qui est l'œuvre de toute une équipe solidaire. Et je pense tout spécialement à la réalisation sur ordinateur de ces deux jeunes femmes qui se consacrent leur temps chaque
faire
mois.
Le journal.
Ah oui, voilà, faire le journal, c'est vraiment très important. Excusez-moi de mon émotivité, j'arrive mal à trouver mes mots, mais j'espère que tout le monde
vous trouvez très bien vos mots, hein.
Je suis impressionné.
Faut pas être impressionné par un micro, hein, parce que qu'est-ce que ce sera quand vous aurez les fusils des bleus devant vous, alors.
Ah oui, mais alors là, quand il y aura du corps à corps, tout ira bien. Je voudrais dire aussi un grand remerciement à mon ami Didier Troude pour les centaines de photocopies qu'il montre chaque mois.
Pas dire d'où elles viennent.
Alors,
c'est de la récupération individuelle, comme disent les anarchistes.
Oui,
il y a toute une équipe qui s'est formée autour de la Durbelière.
Oui, c'est ça
qui est
sympathique. Une espèce de famille d'amis.
Plus de 15 personnes, avec des points de diffusion dans toute la France, et y compris aux États-Unis maintenant.
Oui, vous avez un diffuseur aux
États-Unis. Où il y a un diffuseur qui va nous dispatcher, en quelque sorte.
C'est très
gentil. Une cinquantaine de Durbelières.
Très gentil. Alors, qu'est-ce que vous avez encore à rajouter? Je sais que vous êtes lancé dans une sorte de drapeau. Alors, parce que vous aimez ça, les questions de drapeau.
Hein. Ah, vous voyez.
Oh là là.
Ben, c'est-à-dire que c'était... Voilà, bon, bah, l'idée de créer un drapeau a failli...
Non, je ne vais pas vous mettre une gifle, mais juste, je vous dis, il faut parler le plus fort possible.
Excusez-moi. L'idée de créer un drapeau a jailli de la tête de mon ami Didier Troude, catholique de tradition naturellement, suite à de nombreuses discussions sur la révolution dite française et sur l'état actuel de la France. Alors, bien sûr, il est vrai que l'on a retiré la croix des hôpitaux, que les mouroirs côtoient les avortoirs, que les familles aussi se disloquent et que le nouvel ordre mondial anti-chrétien est à nos portes.
La croix est retirée de partout, sauf des partout. Kiosques, hein, parce que aux dernières nouvelles, elle était encore en kiosque. Hein, la croix.
Alors donc, c'est entre autres pour cette raison-là, et comme une prière d'espérance, un souhait est envoyé vers Dieu. Faire fabriquer, je veux dire, un drapeau où figureraient les deux cœurs sacrés de Jésus et de Marie, entourés de sept fleurs de lys symbolisant la royauté, et des lettres au-dessus, symbolisant tout l'ensemble, pour Dieu, la France, le roi. Et naturellement, il serait béni, et il serait donc présent à toutes les processions et les manifestations royalistes. Hein. Alors donc, pour tous les gens de bonne volonté... S'il pouvait naturellement, je sais que tout le monde demande d'envoyer des dons à l'un, à l'autre. Mais là, c'est vraiment de tout mon cœur et de mon cœur chouant d'envoyer des dons à l'adresse de Didier Troude. Alors Didier Troude, hein, T-R-O-U-D, poste restante, Paris Conservatoire, 75-009 Paris. Voilà. Je voulais aussi dire que ce drapeau sera fabriqué par nos amis de Vexilla Régis.
Ah oui, c'est
un cercle légitimiste qui est vraiment... Ah vraiment, il travaille très très bien.
Franck, je suis obligé de vous interrompre.
Ce sont des Vendéens aussi, les Mélites. Jean-Louis,
parce que maintenant, si on veut garder quand même 5 minutes pour notre
dernier invité de ce soir... Vous voyez, j'étais parti.
Ah mais oui, mais ça... Voilà.
Ça a été dur, excusez-moi.
Malheureusement, ça va... 4-5 minutes, on va nous couper le sifflet, j'allais dire autre chose.
Alors que Dieu guide votre geste.
Donc moi je me tourne maintenant vers Jérôme Grelier, parce que c'est le dernier venu. Oui, puisque je disais tout à l'heure en plaisantant la pièce rapportée, mais enfin bon, il y en aura d'autres derrière.
Un petit peu quand même, un petit peu.
Tout le monde fait des suppléments en ce moment, je sais pas, moi aussi j'en fais un légitimiste, il y a légitimiste junior, ah, vous avez vu, on fait des tas de trucs comme ça, on s'amuse, quoi, c'est rigolo. Alors, vous, vous animez un petit supplément qui en est de saison numéro 2 déjà.
Oui, puisqu'il a commencé en...
septembre, tous les 3 mois, vous sortez...
Oui, on sort une feuille à peu près tous les 3 mois.
3 mois, et ça s'appelle Schwann Cavalerie. Alors, racontez-nous pourquoi vous avez lancé ce petit, qui est sous-titré La lettre des cavaliers du roi, c'est joli.
La Schwann Cavalerie, déjà, parce que je suis fan d'équitation, évidemment. Et donc, j'avais envie de me retrouver dans des randonnées ou dans des réunions avec d'autres cavaliers royalistes de préférence, qui sont un peu aussi attirés par l'histoire, d'où un peu le titre de Schwann Cavalerie, puisque j'ai des origines vendéennes par mon père, et je connais un petit peu cette plus qu'histoire même, c'est une épopée. Donc j'ai eu l'idée un petit peu d'essayer de rassembler autour de ce bulletin des cavaliers royalistes.
Et vous en avez trouvé grâce à ce bulletin, les gens se sont manifestés?
Il y a des gens qui commencent à se manifester un petit peu. Je connais aussi parmi des connaissances au travers aussi bien de gens qui sont dans mon entourage des amis que des gens que j'ai rencontrés dans des centres équestres, des gens qui ont la même pensée que nous, et la preuve en est, c'est que l'un d'eux va nous monter au mois de septembre prochain une randonnée qui partira de Luçon pour aller jusqu'à Cholet par les chemins qui ont qu'on traversait les Vendéens en 93.
C'est vrai qu'on en reparle. Effectivement, du 29 août au 6 septembre, vous avez une grande randonnée équestre.
Chemise bouffante. Au moins. Ah, voilà.
C'est absolument super. Mais écoutez, il me reste à vous remercier. Je me tourne désespérément. On a encore 5 minutes. On peut encore dire des bêtises. Alors, c'est pas fini. La soirée n'est pas finie. Donc, ce journal, je pense que si nos amis auditeurs souhaitent le découvrir, bah, encore une fois, ils écrivent, alors ils en recevront un peu comme le Figaro, Figaro Magazine, Télé, Madame, Petit, tout ça. Il y aura tout un paquet cadeau que vous pouvez leur envoyer.
Voilà. Alors, nous avons regroupé dans un numéro spécial, justement, qui est un numéro de présentation et que nous envoyons pour toute demande.
Voilà. Si vous pouvez envoyer quelques timbres postes.
Oui, bien sûr.
Boîte de cassoulet, un peu de litière pour le chat, enfin tout ça, ça aide quand même.
Le cassoulet, il est de timbre. Très
bien. Ou alors de la litière pour les chevaux, ce serait sympa aussi.
Ah oui, c'est vrai.
Donc Jean-Luc Affarel, La Durvelière, boîte postale 26, 77 230 de Martin Angoël. Également, vous pouvez envoyer un fax au 01 44 75 33 06. Alors ça, c'est valable pour La Durbelière, le mensuel.
Et Cœur de Chouan.
Et pour Schwann
Cavalerie. Oui.
Alors comment, je me retourne vers la Migrolier qui a pas beaucoup parlé quand même. Comment est-ce qu'on devient royaliste à votre âge? Vous êtes encore un tout jeune homme, non?
J'ai 34 ans.
Bah vous dites donc, c'est incroyable, on dirait qu'il en a 18. Ah, vous êtes un traître, hein? Moi, j'aurais dit, il a 18 ans, 19 ans.
Alors il y a déjà, c'est vrai, une partie de ma famille, tout du moins, qui est vendéenne. J'ai connu depuis tout petit, puisque j'allais là-bas en vacances, l'histoire des guerres de Vendée. Et puis aussi, il y a quand même pas mal de choses quand on a 10 ou 12 ans et quand on entend ce que disait Michelet sur les guerres de Vendée, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Les Vendéens, des abrutis, des méchants, des affreux, alors qu'en fait on a toujours entendu le contraire. Et c'est vrai qu'on se pose des questions, on essaye de se documenter sur cette période, on essaye de savoir aussi pourquoi. Et puis petit à petit aussi on s'intéresse de plus en plus à l'actualité et à la vie politique. Et puis un jour, il y a par exemple 1989 qui est célébré en grande pompe. En omettant complètement ce qu'il y a eu à côté, tout ce qui a été massacre, tout ce qui a été pas très joli. Ouais. Donc c'est vrai que ça, on a envie de s'engager un petit peu plus dans cette voie.
Et pour Franck aussi, alors?
Eh ben, moi, tout simplement, je souhaiterais que les auditeurs nous écrivent nombreux, Et les auditrices, naturellement. Non, non, il est vrai que, je veux dire, bon, bah, le lien, il faut que le lien se crée. Et bon, bah, nous vous enverrons des retours de courrier, car, je veux dire, toute lettre est naturellement...
Par contre, nous demandons répondu. Votre indulgence, parce que nous n'avons pas de secrétariat, et donc...
Oui.
Vous mettez oui, un certain absolument. Temps pour tout cela.
Ah oui, oui, et oui. Et l'ordinateur aussi, mm-hmm. ce fameux ordinateur qui manque tellement à notre ami de la Durbelière.
Eh bien, écoutez, messieurs, il me reste à vous remercier de votre gentillesse, de votre dévouement, de votre courage. On peut pas être d'accord sur tout, hein. Évidemment, ce serait ennuyeux si on était vraiment d'accord sur tout. Voilà. Bon, surtout si j'avais toujours raison, ça m'ennuierait beaucoup parce que je finirais par m'ennuyer moi-même. Mais c'est une publication fort sympathique, en tout cas qui est faite par des gens très courageux et qui sont à encourager, à persévérer dans ce courage, cette disponibilité, cette gentillesse, et puis cet acharnement qu'ils ont à défendre encore aujourd'hui la cause du roi, quoi. C'est bien, c'est pas...
C'est une cause d'avenir, contrairement à la désinformation ambiante, voilà, ce n'est pas le passé, c'est une cause d'avenir.
C'est le reste qui est ringard, mais ça c'est vraiment tout à fait l'avenir, avec un jeune homme qui a 19 ans, donc... L'avenir, enfin 24 maintenant, l'avenir lui est ouvert.
Mais nous remercions aussi Radio Courtoisie et votre émission, monsieur Daniel Amiche, d'avoir eu la possibilité d'avoir la parole.
Vous pensez à ma petite enveloppe, n'est-ce pas? Alors merci beaucoup, chers amis auditeurs, c'était un grand plaisir de vous avoir tous ce soir, ici dans le studio, et puis bien sûr les auditeurs auprès de leur poste. J'espère que nous nous retrouverons mercredi prochain, avec certitude d'ailleurs, et nous parlerons cette fois-ci de l'édit de Nantes, puisqu'on célèbre aussi cet événement considérable cette année. Amis auditeurs, merci. Marie, merci de votre aide. Merci, messieurs.
Et vive le roi.
Merci à Jérôme, à la technique. Et puis, bien sûr, vive le roi. Et d'ici la restauration, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre un libre journal de Serge de Bekech, dirigé successivement par Serge de Bekech, assisté de Victoria, et par Daniel Amiche, assisté de Marie. Document d'archives du 18 février 1998, rediffusé dimanche 18 décembre 2011 dans la nuit de 2h à 5h. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondantes aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.